Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 28 février 2015 et nous revoilà de nouveau réunis pour l'enregistrement en trois actes du 13e volet de l'Entrepode. Je vais commencer ma présentation par les invités du jour qui sont les créateurs de la compagnie de la Porte au Trèfle, une compagnie théâtrale basée à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Nous allons donc essayer de nous faire engager au sein de cette équipe afin de leur apporter le professionnalisme et la gaieté qui manquent cruellement à cette région où l'alcool fait beaucoup plus de dégâts que le chikungunya à La Réunion. Ils sont ici pour nous faire partager de l'amour de la comédie. J'ai nommé Bertrand Desgromont et Grégory Barco.
Bonjour.
Ouais.
Voici donc la crème de la crème que je vais vous proposer pour un casting express. Un seul candidat manquant à l'appel ayant été retenu en Espagne pour tourner le remake de Mon curé chez les nudistes dans le rôle de Paul Prébois. Donc, nous pensons fort à toi Freddy et bon courage dans cette super production. Souvent cantonné à des rôles qui lui collent à la peau, il a eu son heure de gloire dans des pubs télé telles que Chaussée aux Moines, Monsieur Propre, mais il a fini malheureusement sa carrière dans la doublure Carrefour Market du géant vert rayon Petit Pois Carotte. Ne passez pas à côté d'une telle ressource. Démonstration.
Chaussée aux Moines, Monsieur Propre, tout si propre que l'on peut se voir debout. Géant vert.
J'ai nommé Christophe. Il a travaillé pour les studios Disney dans la doublure voix française de Donald Duck, mais l'argent, la jet set, l'alcool, la cocaïne ont eu raison d'une carrière étouffée dans l'œuf. Sans jeu de mots, il vaut mieux que certains acteurs finissant leur carrière dans le Carrefour Market, et je ne cite personne en particulier. Attention, interaction. Alors, ça va Donald ?
Bonjour, Marius. Ça va bien ?
Ça va super bien, donc j'ai nommé Arnaud alias JR. Vous vous souvenez des Demoiselles de Rochefort interprétées par Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac ? Eh bien nous avons les Demoiselles de Rouen, tout aussi belles mais avec un petit touche rouennaise qui leur va si bien. Démonstration.
Nous sommes des sœurs jumelles, entraînées à prendre l'apéro.
Interprétées par Starlette et Didouille.
Ouais.
Je prends toujours un immense plaisir à présenter notre acteur vedette, roi du doublage de série B des années 90. Il est capable de jouer n'importe quel spot publicitaire avec beaucoup de talent. Attention, démonstration, on est à deux. Salut Jimmy.
Salut Billy, comment vas-tu ?
Oh, je m'embête un peu ce soir, un peu seul.
Comment ça, tu ne te sens pas très bien ? Un peu seul ? Oh, toi tu ne connais pas le nouveau numéro de téléphone, 06 20 20. Avec ce numéro de téléphone 06 20 20, tu peux rencontrer des filles près de chez toi.
Comment ça, des filles près de chez moi avec le 06 20 20 ?
Oui, Billy, grâce au 06 20 20, tu rencontres des filles à côté de chez toi.
Attention, Jimmy, soyons très clairs. Avec le 06 20 20, je peux rencontrer des filles près de chez moi ou à côté de chez moi, c'est très important.
Billy, grâce au 06 20 20, tu peux à la fois rencontrer des filles près de chez toi et à côté de chez toi.
Oh, merci, Jimmy. Grâce au 06 20 20, je fais enfin pouvoir retrouver le sourire et rencontrer des filles près de chez moi et à côté de chez moi. Merci,
merci à toi, 06 20. 20, à nous les filles près de chez toi et à côté de chez toi.
J'ai nommé Mister Lulu.
Oh la vache.
Dans la troupe de l'Entrepode, il est le directeur artistique, le directeur tout court, le metteur en scène, le mec avec ou sans sourire qui te dit...
Pas du tout. Ta blague sur les deux prostituées dans l'ascenseur où t'en as une qui rote puis l'autre qui répond.
Ta. Je lui laisse donc reprendre les commandes de cette émission. J'ai nommé Nico.
Et ouais, quand je parle comme ça, ça te surprend. Hein. Et bah, merci Marius.
Oh,
tu m'as dit que t'avais pas trop préparé, tu t'es foutu de ma gueule, non ?
Oui. C'est toujours exceptionnel.
T'étais à
bon,
fond.
J'ai rien contre le Nord-Pas-de-Calais, hein. Ma famille. Mon grand-père était mineur à Arnes.
Voilà. Et mort dans un coup de grisou, je crois. Hein. C'est ça, c'était.
Ah, oh, c'est une cause, c'est une cause.
Oh, merde. Eh bien, merci et bienvenue à tous pour ce nouvel numéro de l'Entrepode et le premier de 2015. Bonne année, on peut le dire encore. On s'en
ah oui, bonne année.
Non, on n'a pas fait le numéro en 2015. Dernier, c'est avec Sébastien, c'était en décembre.
Ah oui,
tu es sûr de ça ?
Oui, c'est vrai.
À peu près, oui.
Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans la présentation de Marius, nous sommes bien assez nombreux autour de cette table. Hein. Nous sommes 8, 10, plus les invités, plus le public. C'est un truc de fou. Plus les enfants, plus les chiens, plus. Bref, c'est la folie à l'Entrepode. Même si Freddy a préféré nous délaisser au profit d'une semaine de vacances au soleil. Mais bon, Arnaud nous rejoint. Et donc, pour cet épisode, à nouveau, ce sont deux invités qui nous rejoignent pour aborder un sujet encore une fois culturel, mais cette fois-ci inédit à ce jour dans l'Entrepode, puisqu'il s'agit du théâtre et peut-être même au-delà. Mais en tout cas, comme l'a dit Marius, on va parler notamment de l'activité théâtrale de nos deux invités. Si vous nous écoutez régulièrement, vous connaissez à connaître un peu nos diverses rubriques.
Oh, il parle de Marius.
Mais pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, voici l'occasion de découvrir un peu notre sommaire. Donc on va commencer par un retour sur les épisodes précédents. Ensuite, nous attaquerons avec la rubrique Abrac, où on présente un petit peu des sujets spécifiques qui ont retenu notre attention. Pardon. Viendra ensuite le moment central de l'émission au cours duquel nous échangerons avec nos deux invités. Didou, il nous fera un sujet particulier pour nous aider à nous endormir moins bêtes. Starlette a remis son costume de testeuse tout terrain et nous fera son test mensuel.
Test de grossesse mensuel.
Positif.
Je rappelle qu'elle joue avec tout le groupe Kenji. Donc...
Fais gaffe à ta gueule quand même, toi. Parce qu'il y a un moment, tu sais, ma patience, elle a des limites. Et puis, ce sera le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Et bien entendu, 2015 restera dans la continuité qualitative traditionnelle de 2014 et même de 2013, puisque Mister Lulu nous a à nouveau gâtés pour la séquence post-générique, cette institution que désormais même Marvel nous envie. C'est-à-dire, oui. Les gens restent après le générique pour voir ce qui va se passer.
Mais là, il y a de l'ambition ce soir.
Quand même. Mais à chaque fois, il y a de l'ambition.
C'est vrai.
Tu dépasses à chaque fois les limites. C'est magnifique. Et puis bien sûr, Greg et Bertrand, vous pouvez intervenir quand vous voulez, si vous le voulez. Et puis je vous propose directement de passer au retour sur les épisodes précédents.
Résumé de l'épisode précédent.
Et pour cela, c'est Starlette qui va commencer.
Vas-y. Ah, oui, non, il n'y a pas de jingle en fait.
Il vient de passer en fait.
Il vient de terminer.
Je passe la bouteille de vin, s'il te plaît.
Starlette, nous t'écoutons.
Absolument. Donc, je voulais parler. On avait parlé de Jeanne Hadid suite à notre visite à Rock en Seine. On a eu un petit coup de cœur avec Didouille et Barbara à l'époque. Et Jeanne Hadid a sorti son EP cette semaine, qui est disponible sur Spotify, Deezer et iTunes. Donc là, on écoute un titre. Donc il y a trois titres sur l'EP. Elle va faire une tournée en mars et son premier album solo sort en avril. Elle a été également chroniquée sur Canal+ le 24 février dans l'émission Le Presque Célèbre. Et là, donc, on écoute A War Is Coming. Vraiment, j'adore cet artiste et je suis vraiment pressée que l'album sorte.
Ouais, c'est excellent.
Tout, c'est super.
C'est vrai qu'il y a que trois titres, c'est un peu frustrant.
Non,
mais
en plus, le deuxième titre est très court, donc on reste un peu sur notre fin. Mais
pour l'avoir vu en concert, donc elle a fait plus de trois titres. Et quand tu sais qu'elle vient du milieu jazz, où elle...
Voilà, donc vous pourrez l'écouter sur la playlist Spotify de l'Entrepode, puisque l'épisode sera posté prochainement.
Oui,
en tout cas, c'est vrai que c'est sympa, quoi.
C'est
vraiment très sympa.
Ouais,
et donc l'album sort en avril.
Elles sont que deux, hein, en plus.
D'accord.
Sur la formation qu'on a vue, nous, à Rock en Seine, t'avais une batteuse et elle, et la bassiste.
Ok, merci. Je propose de passer la parole à Monsieur Ludo.
Oui. Que Ludo, tu avais prévu de parler.
Ah oui,
de quelque chose.
Vite, je m'attendais à ce qu'il fasse une liste avant. Oui, c'était juste un petit retour.
T'attendais le générique.
Moi, tu sais, je suis à fond. Je fais la séquence post-générique. Alors, comme ça, moi, je me fais chier pendant à peu près 1h30, 2h, 3h, 4 parfois, et puis après, j'ai ma séquence. Juste un petit retour sur un invité qui était venu nous voir il y a quelques émissions de ça. Et donc, c'est un petit coucou, un petit clin d'œil à Gaëlic Chambrion, puisqu'on est allé voir son concert hier avec son groupe Octantrion, en fait son duo, qu'il forme avec Eleanor Billy. Donc, Gaëlic et Eleanor qui se produisaient au Temple Saint-Éloi hier à Rouen. Et voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour
avec
les vraiment.
Avec
Joseph Van Vissem,
organisé par notamment Freddy et Thierry bien. Jourdain.
L'association Europe & Co.
Voilà. Juste pour vraiment dire, pour vraiment leur rendre hommage, parce qu'entre musique traditionnelle nordique et puis, on va dire, composition plus personnelle, vraiment, ils nous ont complètement embarqués, c'est vraiment à voir. Donc, si vous avez l'occasion de les voir.
Ils ont embarqué tout le public,
ah ouais,
les connaissait pas.
C'était génial.
Freddy, qui ne peut pas être là ce soir et passer nous voir cet après-midi, et nous a dit c'est rare. Une première partie face autant l'unanimité,
c'est clair.
C'est ce qui nous aide. Donc,
Octantrion, j'insiste, vraiment... Octantrion, allez voir ça, ça vaut le coup, ça vaut la découverte.
Exactement. À mon tour, je vais faire vite fait quelques retours sur les épisodes précédents. Donc, je vais juste dire vite fait que j'avais regardé la saison 1 des Revenants dont Ludo nous avait parlé dans l'épisode pilote. Effectivement, la bande originale de Mogwai est juste terrible dans ce, enfin, elle colle complètement à l'univers. Et bon, moi, après, j'ai bien aimé la série, et je trouve
moi
vraiment
aussi.
Que ça colle vraiment à cette ambiance. Ensuite, un sujet que Christophe nous avait présenté, c'était Derf Back Derf. C'est pas facile à dire.
Non, il a un prénom bizarre.
Il a un prénom compliqué. Et,
Derf,
c'est,
ça va,
c'est pas son vrai nom, prénom, mais bon.
Oui, voilà, c'est l'ensemble en fait.
Et donc, en tout cas, il est venu en dédicace à Rouen il y a une quinzaine de jours déjà. Il est venu à la librairie du Grand Nulle Part, donc j'ai eu la chance d'aller pouvoir le rencontrer. J'ai fait un petit billet pour l'Entrepode et c'est un mec qui est assez, assez sympathique, pas très loquace. Mais ça colle bien avec son univers et du coup j'ai acheté sa première œuvre qui s'appelle
Punk Rock.
Punk Rock et Mobile Home, voilà. C'est quelque chose pour Marius. j'ai pensé à toi quand je l'ai lu. Ouais.
Non, c'est vraiment bien d'ailleurs.
Et c'est vraiment sympathique. C'est vraiment un mec qui a plein d'idées et puis il sort un prochain album. Un prochain album, ce que nous disait Freddy tout à l'heure, à l'automne prochain, pardon. Et Mon ami Dahmer sera adapté au cinéma en 2016 par Hollywood.
Ah ouais.
Voilà, adapté par James Franco comme producteur.
Il faut dire qu'il a fait un tabac le bouquin.
Ah ouais, non mais c'est.
Donc il y a forcément.
Donc qu'il vienne à Rouen, c'était très sympa et d'échanger quelques minutes avec lui, c'était vraiment un petit moment sympa. Autre sujet, depuis le précédent épisode, j'ai eu la chance d'aller participer à l'exposition des layouts de Ghibli au musée Art Ludique. Et c'était juste génial. Donc c'est notre ami Arnaud, ici présent, qui m'avait un peu teasé il y a quelques semaines. Et j'étais un petit peu dégoûté parce que ça se termine demain. Donc forcément, le timing ne me collait pas trop. Et puis donc j'y suis allé il y a 15 jours. Je suis allé sur Paris il y a 15 jours. Et malgré les galères des transports en commun, j'ai passé 2 heures pleines dans le musée qui était extraordinaire. Qui m'ont donné envie de revoir tous les Ghibli, et au-delà même, tout ce qui était avant Ghibli aussi. Et c'est vraiment magnifique de découvrir un petit peu cette exposition. Vraiment, Art Ludique, c'est un très très beau musée avec l'audio guide qui est vraiment un plus. Il ne faut vraiment pas passer à côté quand on va dans ce type de manifestation.
Pour tout, l'audio guide, c'est quelque chose de sens. Quand c'est bien fait, c'est
extraordinaire.
Super.
Un petit sujet que Didou nous avait présenté dans l'épisode 10, c'était l'Audace. Donc le restaurant à Rouen qui vient de prendre sa première étoile.
Et oui, premier macaron. En même temps, je prenais pas trop de risques quand même, hein, parce que
non,
le chef
était déjà étoilé avant,
était étoilé dans la région parisienne, mais il est venu à Rouen s'installer et il y a très peu de couverts, mais franchement, ce qu'on avait mangé avec Ludo, c'était absolument merveilleux.
Ça fonctionne très bien.
Mais c'est normal. Je pense qu'elle est, les vaut. C'est bien.
Puis un dernier sujet rapide, c'était le. On a beaucoup parlé de Breaking Bad depuis que l'Entrepode existe. Hein. Et là, depuis début février, avec Starlet, on s'est mis dans Better Call Saul. On a regardé les 4 premiers épisodes, si je ne dis pas de bêtises. 4 ou 5, je ne sais plus. Non, il y en a 4. Il y en a 4, je pense. Et le prochain qui sort mardi. Et c'est vraiment un truc... Enfin, c'est sympa. L'historique de comment cet avocat un peu naze finit par devenir l'avocat un peu des... Des grands dealers, etc., en partant de très très loin. Et c'est un côté comique, mais surtout très dramatique quand même. Ça se passe bien, c'est la même réalisation, même type de réalisation, avec les mêmes cadrages un peu particuliers. Avec les mêmes.
Magnifique aussi, les cadrages.
Les cadrages et les couleurs, si vous aimez Breaking Bad, ça vous parlera. L'histoire, après, ça dépend de chacun, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc on vous incite à voir. Après, je sais pas combien il y a d'épisodes sur la première saison, mais. C'est disponible sur Netflix en France, en tout cas. Voilà. Et puis un petit retour sur les commentaires, donc un peu d'autosatisfaction. Ça fera plaisir à J.R. Frégin, ici présent. toujours des sympathiques commentaires, quand même. On a quand même de la chance, que ce soit de Waterproof, des podcasteurs de Split Screen, de Blast, du magnifique podcast Les Sondiers. Ça, franchement, il faut que vous l'écoutiez. C'est lui qui nous permet un petit peu de progresser en termes de son, dans une moindre mesure. Karine, une nouvelle auditrice qui s'est lancée elle-même dans le podcast, donc une collègue, donc on lance en oui, Didouille, tu me fais des grands gestes.
Bien face au micro.
Pardon.
Parce qu'on parle de son et puis finalement.
Autant pour moi.
Parce que normalement, on reçoit un coup de fouet, hein.
Je sens Christophe était prêt.
Coup de fouet. Ah non, il attend le moment où tu t'y attends pas en fait.
Bref,
je trouve pas le fouet.
Ah merde, c'est juste écrit fouet ici.
Ah ouais, effectivement.
Tu vois, je préfère quand c'est Delphine qui soit.
Ouais, Delphine. C'est ce que Walter nous avait dit.
Ouais, mais c'est coincé entre bordel et on s'ennuie donc.
Notre aussi collègue de podcast Jonathan du Voyage Cast qui nous écoutait entre Montréal et Ottawa.
La classe.
Donc c'est vraiment sympa. Ou même mon frangin qui a été vachement surpris par nos conneries. Donc voilà. c'est bien si la famille découvre un peu nos conneries. Et même notre Christophe, tiens, puisqu'on parle de toi,
oui,
qui n'était pas là la dernière fois, qui s'est fendu d'un petit petit commentaire sur le blog pour nous faire son retour. C'était très sympa.
Oui, je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais j'ai fait un commentaire.
Des trucs gentils. T'étais gentil.
T'étais tout le temps gentil, tout le temps mignon.
Mais aussi, faut pas oublier que effectivement, le dernier épisode, on a été un peu bordélique.
Oui. Hein.
On
n'a
pas eu que des commentaires.
Si vous voulez dire, oui,
on a eu, voilà, faut quand même revenir. On a eu un commentaire, notamment Monsieur Obi, qui a eu à juste titre. La vivacité de nous dire qu'il s'était un petit peu ennuyé
parce qu'on
avait été effectivement
c'était brouillon
et on s'était un petit peu parti en live.
Bah voilà, faut dire que Marius il avait cassé le truc dès le départ avec la BD,
forcément la faute de Marius quoi.
C'est forcément la faute de Marius. À un moment faut quand même être réaliste.
Donc on avait un peu ressenti le même fait que en même temps c'était les vacances, on était tous fatigués et on est parti complètement en live. Donc on va essayer d'être messieurs, vous nous regardez là avec des yeux très inquiets. On va essayer d'être
drôle. Essayer d'être un peu fun, quoi.
Mais en parlant de Monsieur Obi.
Ouais, je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malin.
Parlant de Monsieur Obi, du coup, j'ai mon deuxième follower sur Google Plus.
C'est pas des followers. Là, c'est la célébrité qui arrive.
C'est des followers.
Ça y est, on est potes sur Google Plus.
En tout cas, même si on a eu quelques retours un petit peu moins motivés, on a quand même donné l'envie aux gens de découvrir l'œuvre de Sébastien Bailly la dernière fois. Notamment l'ami Blas que j'ai déjà cité, qui a, photo à l'appui, acheté le bouquin de Sébastien, que moi j'ai fini entre temps. J'ai fait une petite critique si vous voulez voir sur mon blog.
Le nom de ton blog
que j'ai vraiment aimé. Bon, les fonds de tiroir, je vais le dire plusieurs fois.
Ah, c'est toi les fonds de tiroir?
C'est moi, ouais. Ludo, merci pour cette intervention.
Tu parlais de ton blog, les fonds de tiroir. Je rappelle qu'on peut me retrouver moi sur les fonds de culotte en fait.
D'habitude, c'est en fin d'épisode.
Oui, mais là j'ai eu
ça, mais t'as raison. Tu as tout à fait raison.
Il en a un autre dans le tiroir pour tout à l'heure.
Eh ben, ok. Il me semble que nous avons notre auditeur numéro 1, critique numéro 1, J.R. Frégin, qui est venu squatter le micro.
On est ravis de le retrouver.
Ça
fait longtemps.
Parce que c'est quelqu'un qui a des... qui a des critiques très constructives. Manque un peu d'objectivité à mon goût, mais après, je trouve que...
À votre sens, je comprends, monsieur.
Nous allons pouvoir écouter cet énergumène. J.R.,
d'abord,
nous vous écoutons.
JR.
Bonjour JR.
Bonjour.
Qu'avez-vous à nous dire cette semaine, ce mois-ci?
Écoutez, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venu.
En même temps, pas. Hein.
En même temps, deux entrepôts complets, c'est une éternité, croyez-moi. Hein. Mais j'y reviendrai. Alors, épisode 11, Audrey et Benoît. Entrepôts aux antipodes. Alors, des charmants invités hein, qui ont baroudé sac au dos une année entière. Une émission agréable, pleine de dépaysement, de chômeurs, de fonctionnaires oisifs ou rêvant de se mettre en disponibilité. N'est-ce pas, Christophe? Alors, en substance, ces sympathiques routards, par principe, ne souhaitaient pas prendre l'avion. Ils ont pris l'avion. Et ils voulaient prendre le bateau, ils l'ont pas pris. Puis ils voulaient revenir par le train, ils ont repris l'avion. Et puis ils ont pris le bus. J'ai un son inédit qu'on ne retrouve pas sur leur blog, bruitdevoyage.fr. On y entend la frêle Audrey quelque peu fatiguée après 24 heures de voyage à bord d'un bus au milieu d'autochtones. Hola,
hola, ici Obom.
Tu vas couper ton haut-parleur de portable, connard de brésilien? J'ai envie de pioncer, moi. Calme-toi, Audrey, quand on arrive, tu iras courir. Non, Benoît, ta gueule, t'en mêle pas. Je veux finir par regretter Nico.
Quoi les problèmes, madame?
Le problème, c'est que vous êtes encore plus bruyant que ces putains de chili con carne au camping avec leur groupe électrogène. Bande de sauvages! Audrey évoquait l'empreinte laissée en termes d'image par le comportement des touristes dans l'esprit des populations locales. Cette altercation restera comme une trace indélébile au fond d'un vieux slip de manouche à l'hygiène douteuse. Ah, pléonasme, me direz-vous? Ah bah oui, ici c'est le seul endroit où on peut faire du manouche bashing dans toute quiétude. Ah, j'ai bien compris que vous avez un ami gitan comme certains ont un bon ami noir. Un simple alibi. Pauvre Marius. Ah, je ne parle pas ici de l'adolescent prépubère que Monsieur Lulu fait travailler en sous-marin pour alimenter sa chronique musicale post-générique.
Tu veux répondre, Marius, ou pas?
Et qu'il livre parfois en pâture aux invités lorsqu'ils se font pressants. Non, non, je parle de l'autre Marius, Google Plus. Le batteur battu. Celui que les autres amènent en permanence à sa condition de gens du voyage. Lui-même ayant fini par s'attacher à ses bourreaux, n'a de cesse de se rabaisser au rang de rempailleur illettré, bouffeur de hérissons, comme il dit. Typique du syndrome des Saintes-Maries de la Mer. Ah, c'est comme le syndrome de Stockholm, mais pour les gitans. Mais bon, faudrait voir à le détacher quand même. Hein. Vous allez finir par avoir des problèmes avec la SPA, la Société Protectrice des Apatrides, pour maltraitance sur un romanichel de race, qui plus est croisé avec un canard sauvage. Pour ma part, Marius, sachez que j'épouse votre cause. Je suis Joby.
Merci beaucoup, Jean-Robert.
Je vous en prie, Marius, c'est la moindre des choses. Alors, à ce propos, redevenons sérieux 2 minutes pour parler des événements qui nous ont toutes et tous affectés ces dernières semaines. Ces moments douloureux, je n'en doute pas, pour tous vos auditeurs, mais plus particulièrement pour le monde du journalisme. De quoi, Charlie Hebdo ? Attendez, il y a un malentendu, je ne parle pas du 7 janvier 2015. Moi, certes, je suis Charlie, je suis Joby, mais surtout, je suis Bailly. Sébastien Bailly, journaliste, a été victime d'un véritable attentat radiophonique le 29 décembre 2014.
Espèce d'enfoiré.
Oui, épisode 12, une prise d'otage interminable diffusée en direct différé sur Google+. Ah, vous êtes vraiment des salopards. Hein. Ah, ce qui me terrifie, c'est que vous utilisez de véritables armes de guerre, des armes de destruction poussive. À cet égard, Christophe, le Patrick Peloux de l'anthropode, est un véritable miraculé. Il était absent et a ainsi échappé par une pirouette du destin au massacre. Depuis, apparemment, il est dans le déni. Hein. Il a même déposé un gentil commentaire sur le site. Il refuse clairement d'admettre que le pire est arrivé. Comme l'aurait dit le regretté Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça. J'avais fini par admettre qu'il puisse exister malgré les famines, la maladie, la guerre, le terrorisme. Mais pour moi, vous êtes la preuve ultime qu'il n'existe pas. Jamais il n'aurait permis ça. Tout bien considéré, il était assez moral que Sébastien Bailly soit ainsi puni. Il était venu vendre son roman Polanski. Son roman pour enfants. Ma langue a fourché, mais quand on y réfléchit bien, c'est un peu pareil. Enfin bref, son roman jeunesse. Manolo, la chasse au Rastaquer. En remettant ainsi une couche sur le pauvre Marius. Alors, au début, Sébastien Bailly faillit bailler, puis Bailly bailla. Et Audrey, l'attentat au féminin, l'affirme, Salvador II bailla également. La faute à tous, mais peut-être notamment à une Madame Didouille, pas au meilleur de sa forme, hein, avec sa fameuse rubrique pour s'endormir moins bête. Ah, je ne sais pas si je me suis endormi moins bête, mais je me suis endormi.
Alors, bah d'ailleurs, je me rappelle même plus. Hein.
Je crois qu'il était question de l'origine de l'expression bœuf carotte employée pour parler de la police des polices. Alors, dans un demi-sommeil, je me suis réveillé au moment où dans mon rêve un téléphone sonnait. Navarro Danan, j'écoute. Pourtant, pour réchauffer un peu l'ambiance, Nico a relancé le sujet du salon de l'érotisme. Source inépuisable d'inspiration pour l'équipe qui trouve le moyen d'en parler même quand ils n'y vont pas. Bon, l'an prochain, si vous décidez vraiment à y aller, je vous offre en guise d'étrenne tardive le titre de votre podcast, L'Entre-God. Bon, ça va vous surprendre, mais Manuel Valls m'a contacté. Il voudrait que vous mettiez vos méthodes au service du bien dans le cadre de la lutte antiterrorisme. N'importe qui craquerait lors d'un de vos interrogatoires. Mettez Al-Baghdadi entre les mains de l'équipe de l'anthropode et renoncera au califat. Un nouveau concept de torture. On connaissait good cop, bad cop. Voici long cop, syncope. Ces méthodes d'interview sont clairement contraires aux conventions internationales. À Guantanamo, à côté, sont les jolies colonies de vacances de Pierre Perret. Noriega avait rendu les armes au Panama au bout de plusieurs jours de diffusion de rock à plein tube, alors qu'il aurait suffi de 2 minutes d'anthropode. Quand je vous ai rencontré la première fois, monsieur Nico, j'avais souligné vos progrès en termes de montage. Il a suffi que je m'absente pour que vous rechutiez. Un accident industriel. 2 fois 3h10. Non mais vous avez conscience que l'anthropode est la seule émission au monde plus longue après montage qu'avant ? Non, en plus, vous avez eu une idée incongrue de regrouper dans le dernier épisode les questions de vos chroniqueurs par paquet de 12 avant de diffuser les réponses de manière aléatoire et incomplète. Comment ça, c'était pas dû au montage ? Bon, quoi qu'il en soit, grâce à moi, vous allez rentabiliser tout ça. Foi de Jean-Robert, j'ai ceci de commun avec l'anthropode que j'ai fait et défait pas mal de carrières. Eh oui, j'étais géologue dans une entreprise de BTP. Carrière de schiste, carrière de craie. Bon, toujours est-il que pour booster votre affaire, j'ai déposé le nom Anthropode pour en faire une nouvelle unité de mesure du temps. Air France m'a immédiatement versé des royalties pour l'utiliser. Pour enfumer leurs passagers potentiels, la compagnie va traduire ses durées de vol en anthropode. Et Paris-Athènes, un anthropode. Et Paris-New York, à peine plus de 2 anthropodes. Ça en jette. Bon, j'ai par ailleurs développé une application grâce à un ami marathonien. Lorsqu'il a découvert votre émission, il a renoncé aux applications dédiées à la course à pied, type Runtastic ou Nike Plus Running, pour s'entraîner en écoutant l'anthropode. Son but, c'était de courir le marathon en moins de 3 heures. grâce à ma nouvelle application, l'anthropodomètre, et il fait d'une pierre deux coups. D'abord, ça lui donne un repère. S'il arrive avant la fin, c'est qu'il est largement dans les temps. Mais en plus, ça lui donne envie de finir plus vite pour abréger sa souffrance. Hein, comme il dit souvent à votre propos, plus c'est long, plus c'est con. Bon, on dira que j'exagère, mais il n'y a que les deux ou trois aventuriers qui sont déjà allés au bout d'un anthropode qui savent que c'est une expérience particulière. Par exemple, le dernier anthropode, j'ai un très bon ami qui l'a écouté un soir après avoir couché ses deux garçons de 7 et 10 ans. Bah, à la fin de cet épisode 12, ces deux gamins avaient plus de 30 ans et il était grand-père. Ah, l'anthropode, c'est encore plus fort qu'Interstellar. Toute la théorie de la relativité en un podcast. Bon, il paraît qu'en plus, vous avez trouvé le moyen, malgré la longueur de vos émissions, de mettre un chutier en ligne. Tout ce que vous aviez coupé au montage. Quand on connaît votre niveau d'exigence, autant dire un worst off. Bah, j'ai pas voulu l'écouter, hein, peur de la fatigue nerveuse. Comme le dit l'expression, plus dures seront les chutes. Bon, je vous laisse avec vos amis intermittents du spectacle, que je ne taquinerai pas sur leur régime de privilégiés. Hein. J'ai en effet moi-même, comme certains ont un très bon ami noir ou gitan, un très bon ami intermittent.
Bravo.
Merci.
En forme, JR, en forme.
En forme, là.
Enculé.
Je vous en prie.
Ça faisait longtemps, comme quoi. Hein.
Bon, JR, c'est bien, mais tous les 4-5 épisodes, c'est bien aussi.
Même s'il n'y a pas que du faux dans ce qu'il dit, c'est ça qui est énervant.
C'est important, il nous ramène à, tu vois,
à notre condition, à notre condition. De simple mortel. Et voilà. Plein d'imperfections.
Exactement.
Voilà. Eh bien, Ludo. Puisque tu parles.
Oui, oh, ça va être rapide en fait.
Je te propose de garder. Non, mais non. D'abord, il y a un petit jingle.
Ah oui. Bah oui, merde.
Et là, tu peux y aller.
C'est la rubrique à braque.
Exactement.
Oui, donc c'est un peu la rubrique à braque, un peu tout et n'importe quoi. Donc on aborde tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, je vais donc aborder tout et n'importe quoi en quelques minutes.
Il fait gaffe maintenant.
Ben oui, bien sûr. Non, c'est juste, c'est plutôt de l'ordre de quelques brèves en ce qui me concerne. Juste pour rappeler à tout le monde que Leonard Nimoy est mort à 83 ans. Leonard Nimoy, Star Trek quand même, hein, c'est quelque chose. Pascal Brunner est mort à 51 ans. Pascal Brunner, c'est quelque chose aussi. Enfin, c'est moche, quoi. Heureusement, les enfoirés sont là, hein, puisque avec la nouvelle chanson, hein, les jeunes ont toute la vie devant eux. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? On se dit, tiens, bon, alors, juste un truc, c'est qu'à mon sens, hein, cette chanson est très, très incomprise, franchement. Mais ça, c'est un autre débat. Jean-Jacques Goldman s'en est expliqué il n'y a pas très longtemps, donc on en reparlera peut-être à l'occasion. Quoi qu'il en soit, toute la vie, oui, toute la vie, malheureusement pour Léonard et puis pour Pascal, bah, toute la vie, c'est pour demain. Grâce à l'annonce qui a été faite par un neurochirurgien italien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle-là, ouais. Sergio Canavero, qui promet une greffe de tête d'ici 2 ans.
D'ici 2 ans.
Super.
Ouais, ouais, un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors, ce gars-là, il est neurochirurgien à l'Université de Turin, donc ce n'est pas a priori un rigolo.
Greffe de tête ou greffe de corps, parce que...
Greffe de tête sur
un corps. Donc, c'est un peu voilà. Les deux, en fait.
D'accord. Donc, on garde sa tête, en fait.
Non. Alors, tu vas voir, je vais t'expliquer un peu. En fait, ce gars-là, il est spécialiste de la stimulation cérébrale, donc il a mis au point, semble-t-il, un protocole qui permettrait, en fait, de fusionner la moelle du donneur et la moelle du corps receveur. Alors, on se dit, waouh, c'est génial. Il va présenter ce projet-là à l'Académie de chirurgie, de neurochirurgie aux États-Unis en juin 2015. Donc, il va lancer son truc. Alors, ben voilà, donc, un truc de fou. Imaginez la vie éternelle. Imaginez les tétraplégiques qui marchent. Imagine les vieux milliardaires immortels, parce que ça coûte à peu près, je crois, $1 million.
Mais qu'est-ce donc un million pour la vie éternelle ?
Rigolade.
Mieux que ça. Et les donneurs morts, parce qu'il faut quand même se dire, la tête du gars, bon, c'est lui qui va se prendre la tête, on va la coller sur le corps d'un donneur mort. Imaginez quand même que les donneurs morts auront une descendance. Puisque, bah oui, hein, je veux dire, c'est tout en bas.
C'est un peu glauque ton histoire.
Oui, bah oui, c'est pour ça, ouais, exactement. Et ouais, les spermatozoïdes, c'est pas dans la tête.
Qui est mort ? C'est le corps qui est mort et la tête qui vit ?
Ah, bah la tête qui vit,
mais
bien
non,
sûr.
C'est le contraire.
Pas du tout.
Mais le non, corps, en fait, ils prennent un cœur la... qui bat.
Bien sûr, attends, je t'explique.
Ils prennent la tête.
Le gars est tétraplégique, ok ? Je suis tétraplégique.
Ah oui, d'accord.
Je suis super friqué.
Il y a un accident, quoi.
Je change de corps, je vais récupérer le corps d'un donneur, un type qui est en mort cérébrale.
Mais s'il est mort, le cœur marche plus.
Non, le type est vivant.
Mort cérébrale.
Oh, écoute, merde. C'est lui...
Mais non, il s'est mal exprimé, je suis d'accord avec Starlet. Il a dit un corps mort. Un corps mort, il n'y a pas de flux sanguin, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien.
C'est comme les greffes.
En mort cérébrale, je suis d'accord.
Non, mais Starlet,
faut que ça soit fait.
Starlet, une tête morte sur un corps vivant, c'est Marius.
Donc, en gros,
si c'est la guerre, tu veux, toi. Hein
le gars, par exemple, le gars se dit, voilà, pour X raisons, il est tétraplégique, il lui manque quoi que ce soit et tout. Il se fait couper la tête et il se la fait coller.
Mais c'est trop trash.
Non, c'est drôle. Attends, attends la suite.
Non,
c'est
attends.
Faire, est-ce que quelqu'un autour de cette table voudrait faire cette expérience?
Il y a plein de questions passionnantes.
Moi, je veux bien. Ouais.
Sur un corps.
Une grève des cheveux que tu veux.
Ouais, non.
C'est pas juste par la tête.
Dès l'instant où j'ai un nouveau corps.
Bah,
il y aura des hormones différentes, donc mes cheveux pousseront.
Toi, t'as un problème d'hormones, toi. Je pense que t'as un problème d'hormones.
C'est logique.
Alors en plus, ça pose plein de questions, outre les questions d'éthique, hein, parce qu'évidemment...
Déjà, c'est pas mal. Hein.
C'est déjà très très long. Mais en plus, il y a eu des cas de, rejet, en fait.
Oh non, le
rejet de la tête.
Je vous explique. Il y a des gens qui se sont retirés, il y a eu des greffes.
De main, visage même.
Des gens qui n'ont pas supporté, au bout d'un certain temps, le membre. Imaginez, vous faites greffer, vous enlevez votre corps et vous faites greffer un nouveau corps.
C'est un rejet du corps.
Imagine que tu
fais un rejet du membre.
Imagine que tu fais greffer sur le corps de Marius, par exemple.
Je rejette. Hein.
Voilà. Bon, alors en même temps, ça, tu vois. Eh bien voilà, ça pose plein de questions. Où est-ce que tu vas chercher les corps? Je veux dire, qui est prêt à payer? Ça ouvre aussi l'immortalité. Ouais, t'as plein de questions.
C'est dégueulasse, en fait.
Ouais. Et puis il y a aussi, enfin, il y a le rejet.
Parle bien dans ton micro.
Oui, je suis là. Mais il y a le rejet biologique, mais surtout le rejet psychologique.
Tu m'étonnes.
Vivre avec le corps de quelqu'un d'autre et de s'habituer.
Enfin, super étrange.
Ça me paraît bizarre, ouais.
Moi, tu m'as apprivoisé le concept.
En gros, lui te dit, il a inventé donc ce protocole qui permet de fusionner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ce qui permettrait de fusionner.
Rentre dans le détail, Ludo.
Parce que la complexité technique, c'est aussi de relier toutes les fibres nerveuses pour que le gars puisse également remarcher. Il y a une tentative qui a été faite en 1970. Sur un singe, c'est une expérience qui a eu lieu en 1970. Ils ont greffé la tête d'un singe Rhésus sur un corps de singe, un autre corps de singe.
Est-ce que ce n'est pas 1973?
Oh Marius, c'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire.
Mais je ne suis pas bien 73. Bien,
74.
Vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'issue de cette expérience?
C'est ma fête, non?
C'est quoi? Bah, vas-y, fais
péter.
Eh bien, en fait, le singe à qui on a greffé la tête sur le corps, ben, je vais vous dire, en fait, ce singe a survécu 36 heures, dont 3 heures éveillées. Dont 3 heures éveillées. Il avait les sens intacts, si ce n'est le fait qu'il était complètement paralysé, puisqu'en fait, ils n'avaient pas pu reconnecter en fait, toutes les nerfs liés à la motricité.
Non, mais je ne vois pas du tout l'intérêt, en fait.
C'est sorti. Tu sais à quoi ça me fait penser?
Aucun intérêt.
Ça me fait
mais
penser
Ludo, ça
à...
le fait triper. En ce moment, il a envie d'être
les Sarado. Vous rigolez, aucun intérêt.
Non, ça me fait penser au gros délire du film Centipède, la Centipède.
Ah, Human Centipede.
Et ça me fait penser à ça, le gros délire. Enfin, ouais. Il faut aller plus loin que plus loin.
Voilà, en gros,
l'idée est intéressante, mais elle est infaisable.
Non, alors c'est justement pas ce que le gars il dit.
Mais
c'est
non, mais le gars,
de Frankenstein. Hein.
Alors justement toute la question, puisqu'en fait ça va être donc présenté à ce congrès de neurochirurgie en juin 2015. Évidemment, il y a des questions d'éthique qui sont énormes, puisque
c'est en ce sens que je dis que c'est impossible. Qui va accepter de se faire couper la tête,
rigoles,
et d'être greffé sur
la des gens qui se sont congelés. J'y viens. En disant la science.
Le gars sait pertinemment que certains pays, donc on peut citer par exemple la France ou d'autres pays, vont refuser. Et lui a dit clairement, si ces pays refusent, il y aura toujours des pays qui accepteront de financer.
Bien sûr,
ouais, les pays du tiers monde, quoi.
Mais non, même pas. Les États-Unis.
Ah bah,
j'en sais rien.
Non, mais ils ont recherché
la Californie.
Mais tu as raison. En tout cas, c'est un vrai problème éthique, et donc il y a tout un débat là-dessus. Aussi, le fait, il expliquait même que le temps de récupération après, c'est-à-dire qu'en gros, le cas, le temps que ces
terminations
nerveuses se ressoudent, il allait être mis dans le coma pendant un certain temps. Pour ensuite avoir au minimum un an de rééducation fonctionnelle pour pouvoir fonctionner un truc de taré. Voilà. Ça me fait marrer. Juste en conclusion, je vous donne des choses. Donc, bref, impossible. Hein, donc, c'est en gros, si ça devient réalité, bah, ça risque de faire tourner bien des têtes. Voilà.
Merci pour cette avancée technologique et scientifique. Je vais proposer à Madame Didouille de. Oui.
Déjà ?
Eh oui, déjà. À toi, Didouille.
Alors, moi, je voulais vous parler de voitures. Parce que, voilà, je vous le dis, je suis fan de voitures, des GT, j'adore les voitures. Et puis, je voulais relancer un truc sur notamment, vous connaissez tous Kia.
La chanteuse, oui. Kia,
qui en 2013 avait participé à une œuvre caritative qui s'appelait We Can Be Heroes, et pour l'occasion avait signé avec un contrat avec Comic Books et DC Comics Entertainment. Et cette campagne, donc, était baptisée We Can Be Hero et était destinée à lutter contre la famine en Afrique. Exactement. Et pour cette occasion, ils ont fait 8 concept cars sur le thème des super-héros. Donc, ils ont designé plusieurs modèles de leur série. Hein. Donc, il y avait des Sportage et tout ça. Alors, vous pouvez aller voir... enfin, on les mettra sur le site. Donc, il y a la Kia Sportage Wonder Woman. C'était pour moi. Qui a été montrée à New York.
Mais ils oui, ont Wonder sorti Didouille.
La Batman. Ils ont sorti... enfin, ils en ont sorti...
la Spider-Man.
C'est la septième. Hein. Wonder Woman, c'est la septième concept...
La première, c'était Superman, ouais, je crois.
Oui, il y a eu Superman, il y a eu Batman.
La voiture de mon fils.
Non, mais sérieux, Batman. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai trouvé le concept super génial. En plus, ces voitures étaient vendues donc, aux enchères au profit de cette lutte contre la famine en Afrique. Et fort de son coup d'essai sur le concept car sur les super-héros, vous êtes tous fans ou enfin, il y en a autour de cette table qui aiment les X-Men.
Il y en a moins.
Oui.
Bah oui. Donc, pour la dernière sortie du X-Men, du DVD de X-Men, Kia a dévoilé lors du Salon de Los Angeles son Sorento X-Men Edition.
Je ne sais même pas ce que c'est que Sorento, c'est horrible.
Bah, c'est un
une voiture avec
Kia.
Des griffes de Wolverine.
Alors voilà, ils ont décidé de faire la voiture des X-Men et donc en soulignant un héros des X-Men particulièrement qui est Wolverine. Et moi, j'ai trouvé ce concept car absolument génial.
On peut voir les photos en direct sur Google+, grâce à Marius à ce moment-là.
Alors, Marius, je compte sur toi.
Le montage aura lieu dans 3 jours.
Non, mais ils l'ont montré il n'y a pas longtemps aux États-Unis et à l'occasion de l'Open d'Australie 2015. C'est Raphaël Nadal
voilà.
qui viendra le dévoiler.
La
qui
première
viendra.
Fois, c'était caritatif. Là, c'est juste.
Oui, non, mais là, en fait, c'est un coup de cul pour Kia. Et en même temps, pourquoi ils le feront, ils le feraient pas en espresso, ils font bien avec du jardin. Et,
non, mais,
voilà.
C'est vrai.
T'as complètement le droit de penser.
Et honnêtement,
je sais pas quoi dire.
J'adore. Non, mais moi, je suis fan. Je trouve que ces bagnoles, elles sont absolument. Est-ce alors, qu'il y a une voiture de l'Aquaman. L'Aquaman
Spider-Man, Spider-Man, il y en a une ou pas?
Non, il n'y a pas non. Spider-Man.
Bon, bah, c'est nul.
Ouh,
non,
c'est nul.
C'est non.
Pas bien.
Ah bah en même temps, regardez l'Open d'Australie, hein, c'est quand même Raphaël Nadal qui va venir avec. Et sinon, vous.
Il va jouer au tennis avec une raquette.
Il y a eu. Mais non. Par j'ai contre, il y a eu un jeu concours qui a été fait pour gagner le DVD de dernière semaine.
Hein. Toi, t'as joué. Je sens que t'as joué.
Et selon l'image.
T'as joué ou t'as pas joué?
Mais non, j'ai pas joué. Mais non.
Marius, engueule ta mère.
Mais non, j'ai rien, chaque fois qu'il parle, elle me fait chier.
C'est pas toi. C'est pas toi, t'as
ça,
rien compris.
C'est vache, ça. Ouais, non, il a pas compris. Hein.
Pourquoi tu regardes tes photos de vacances pendant
mais
que
non,
tu...
je voulais vous montrer.
En fait, même elle, ça l'emmerde sa chronique.
Non, mais je vous la montre, regardez. La voilà, la voiture. Ça peut
être chiant. En plus, t'aimes bien les bagnoles.
Oh, non, mais c'est. Mais c'est vrai que c'est vachement c'est parlant classe, en fait à l'entrepôt.
C'est Marius aussi.
Mais non,
fait.
Mais on les mettra en lien.
Au final, ça va pas être mis en commercialisé ou quoi c'est... que ce soit. Enfin,
non, celle-ci c'est juste un concept car.
C'est que des concept
car. Un coup de pub pour X-Men et pour.
Comment il y a Raphaël Nadal
comment
il s'ouvre
et voilà. Par contre, celles qui ont été faites en 2013 pour l'association We Can Be Heroes, elles ont été vendues aux enchères.
D'accord. Christophe, sur ces mots qui te laissent sans voix, je te propose de continuer
oui.
avec ton sujet.
Alors, on va changer un petit peu radicalement de sujet. On va passer des bagnoles au roman. Bon. Hein
why not c'est, why not voilà, non, mais c'est ton choix. C'est comme ça, c'est ton choix.
Donc, je voulais vous parler du dernier roman de Virginie Despentes qui s'appelle Vernon Subutex, le tome 1.
Il y a donc plusieurs tomes.
L'histoire de ce... Je suis perturbé par l'autre qui monte ses bagnoles. Je t'ai dit, il n'y a pas Spider-Man, donc ça n'a aucun intérêt. C'est le meilleur.
Non, c'est Batman. Mais bon, on va pas se prendre la tête.
Mais non, c'est Spider-Man. Enfin,
ça m'énerve.
Rappelez nous votre âge.
Il va m'énerver.
Non, le meilleur, c'est Batman.
Je pense que... Bref, continue. Non, je me fâche.
Je reprends donc.
Pour les deux du fond qui ne suivent pas.
Donc, le dernier roman de Virginie Despentes qui s'appelle Vernon Subutex, le tome 1, qui est donc une trilogie. Vite fait l'histoire. Donc, ancien disquaire de son nom, Vernon Subutex, un nom particulier, se retrouve expulsé de son appartement après 50 ans. Et donc, son univers, à partir de là, s'effondre. Son magasin de disques rock a fermé, s'ensuit une longue descente sociale. Ses économies, plus de toit, plus rien, enfin voilà. Il se retrouve donc à la rue, sans ressources, après avoir travaillé très dur toute sa vie. Parallèlement à cette première histoire, le chanteur millionnaire et populaire Alex Bleach, décédé d'une overdose, laisse un enregistrement vidéo testamentaire à Vernon. Ils sont nombreux donc dans Paris à vouloir connaître le contenu de la confession de la star à la dérive. Une petite foule donc recherche Vernon pour mettre la main sur ses rushs, rushs secrets, qui valent une petite fortune. Donc, pendant que Vernon lui-même recherche des appartements, malheureusement, lui, pour passer la nuit. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Ça t'est marré, toi?
Oui. Quand je m'emmerde, ça me fait rire.
Continue de l'écouter.
Ouais, non, mais je sais bien, je suis désolé, il comprend pas. Donc ce roman, c'est un véritable scanner littéraire.
Littéraire
du désarroi général que traverse notre pays en crise. Voilà.
Oh la vache.
Ce roman dresse un portrait acerbe de notre paysage social, avec notamment Facebook repère de psychopathes autocentrés, les dérives du consumérisme, l'ultra-moderne solitude de chacun, la précarité,
l'individualisme. Ça c'est Touchon, ultra-moderne solitude, ouais. C'est Touchon, c'est pas de toi.
Oui, mais c'est un mot qui est entré dans le langage courant. Un mot, une expression. Donc, pour ceux qui connaissent Virginie Despentes, même ceux qui ne connaissent pas, son écriture est assez directe, tranchante, les mots sont crus, les dialogues sont trash, sa plume est toujours aussi assassine. Mais cette fois-ci, elle s'est un peu assagie et la mélancolie s'est quelque peu installée, comme une sorte de résignation sur ce monde et cette société qu'elle a longtemps décortiquée, voire même mal digérée. Et donc Virginie Despentes a un vrai regard lucide sur la société. Elle décrit avec justesse les réseaux sociaux, donc je l'ai dit, ces nouveaux liens sont apparus dans notre société. L'auteur parle aussi de racisme, d'homosexualité, de transsexualité, de chômage, de cinéma, d'édition, de finances et surtout de très très nombreuses références au rock des années 70-80 qui anime régulièrement son écriture.
Vas-y mon Christophe, t'arrêtes pas.
C'est un roman qui décrit remarquablement, je trouve, la société française actuelle. Qui capte à la fois l'émotion, le tremblement et l'inattendu du réel, une société que moi je qualifie de résignation et de soumission. Des êtres qui se débattent dans une société gagnée par la mort des idéaux et par la fracture dessinée par l'argent. Dans une écriture intransigeante, tranchante, rageuse, la romancière livre un récit brut de décoffrage et ça fait du bien. Construction parfaite, efficace, qui se lit un peu comme on bouffe une série, en état d'addiction, compulsivement, avec... en plus, la joie de lire la colère que ce roman exprime. Voilà. Et je le conseille à tout le monde. On verra les deux tomes suivants. En tout cas, le tome 1 est vraiment passionnant. J'espère que la suite sera aussi prometteuse. Il y en a qui disent, d'après ce que j'ai pu entendre...
Il y en a conseillé. Pourquoi il me regarde ?
Que c'était son moins bon roman par rapport à ce qu'elle avait écrit avant. Et moi je trouve que c'est son meilleur, donc chacun se fera son avis.
Je précise que c'est une discussion qu'on a eue juste avant. Et moi je ne l'ai pas lu.
D'accord.
C'est les échos que j'ai eus.
J'avais pas eu ces échos là, c'est parce que tu m'en as parlé, mais je voulais en dire un mot parce qu'effectivement,
du coup ça m'intéresse ta présentation, ça me donne envie de lire.
Mais en tout cas ouais, moi aussi ça me donne vraiment beaucoup envie de le lire.
Ok.
Et donc c'est vraiment et c'est découpé sous forme de chapitre où chaque chapitre c'est un stéréotype de la société, enfin un personnage qui est le stéréotype de la société. Sans pour autant entrer dans les clichés, c'est-à-dire qu'elle elle décrit des gens qui pourraient être nos voisins, nos collègues. Certains sont odieux, ont des comportements répugnants. Enfin, on y trouve vraiment toutes les vicissitudes de la vie qui ont pu détruire chez certains des espoirs, des rêves, des passions. Enfin, je trouve que ce roman mérite vraiment d'être lu.
Voilà. C'est...
Moi, je l'ai
quelqu'un, Alex Mille.
Moi, je me permets. Ouais, je l'ai lu et je l'ai dévoré.
Ah, merci. Ah, ouais. Merci
donc
beaucoup.
Bertrand, notre invité
de soutien.
Tu rejoins Christophe sur la vie générale ou
complètement. C'est juste que c'est perturbant de se dire qu'on se régale de lire quelque chose d'aussi négatif.
Cynique.
Ben, en fait, c'est pas cynique. C'est elle montre à quel point on est devenu cynique, oui. À quel point on est devenu prisonnier d'un. On ne met pas du tout en question la société dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, fait qu'on ne se réunisse plus, qu'on ne se parle plus. Voilà.
Mais en même temps, elle décrit tellement bien... je pense que ce qu'on aime, c'est qu'on retrouve dans ce qu'elle écrit ce qui se passe dans la réalité.
Ouais.
Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est ce parallèle-là que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est une description du réel, quoi, finalement.
Ouais, ouais, complètement. Il y a une vraie écriture. Moi, j'avais, pour être honnête, un a priori sur elle, je ne l'avais jamais lu.
Moi, j'en avais lu quelques-uns avant qui étaient très, très tranchants, quoi, très hard.
Mais du coup, j'en ai acheté depuis, en fait. Mais j'ai trouvé l'écriture géniale. Ouais. Je le lisais comme on lit, je sais pas, un Harry Potter. Quoi. Je pouvais plus m'arrêter.
Ouais, c'est ça. Bout. Pareil.
Et c'est au bout d'un long moment que j'ai réalisé que je lisais un truc glauque. Ouais. En fait.
Oui,
mais la raison d'être du bouquin n'est pas du tout sur ça. Donc du coup, on n'est pas porté. Enfin.
Tu l'as fini, Christophe ?
Oui, moi je l'ai fini.
Tu vas peut-être me laisser ou pas ?
Bien sûr, bien sûr.
Si, j'ai fini, ouais.
Mais il y a aussi pas mal de références rock, et moi c'est ça aussi que j'aime bien. C'est-à-dire que le type, il a un passé, il a une culture rock, puisqu'il était disquaire. Et c'est le côté un peu positif, c'est-à-dire le moins glauque du bouquin, quoi. Et donc le tome 2 sort en mars, et puis le tome 3, je ne sais pas.
J'ai pas la date non plus.
Mais je sais que le tome 2, là, c'est à la fin du mois, ouais.
Eh bien, merci Christophe. Donc, on rappelle, ça s'appelle Vernon Subutex, le tome 1 de Virginie.
Ouais, je voulais juste lire un passage.
Vas-y.
Ouais, qui est vachement bien.
J'ai vu que tu avais pris des notes avec des petites croix.
Non, c'est vraiment très très court. Parce qu'en fait...
Tu te la joues trop à la Ruquier, quoi.
Non. Non, mais. Okay, en fait, il parle des gens qui écrivent. qui font des blogs. Alors, je suis désolé, Nico, c'est peut-être pas pour toi. Hein.
Ah, vas-y. Ça peut être pour Valenci, hein, tu sais.
Mais c'est trois lignes, en fait. Hein. Il n'a pas envie de joindre sa voix à la cohorte. Il n'a pas envie d'ouvrir un blog pour déverser sa bile. Il n'a pas envie d'ajouter un flot de merde, sa petite crotte de débile. Voilà, c'est tout.
Ah, c'est ce qu'on appelle vraiment un court extrait.
Ouais, je sais.
Non, mais je vais pas en lire.
Je vais essayer quand même de lire. Quand même.
Cela étant, le blog, le podcast,
promets
etc.
Rien, mais je vais essayer quand
côté,
même.
Mégalo, égocentrique qui existe un petit peu dans l'histoire. Donc c'est pas.
Capable de.
Il faut savoir le gérer, puis c'est tout.
Tout à fait. Il faut savoir le rendre intéressant.
Comme ça. Hein.
Exactement.
C'est un peu ce qui est dit, quoi.
Alors, nous allons passer la parole à Arnaud. Oh, bah de non, quoi Arnaud. Vas-tu donc nous parler ? Alors, tu as l'air de rechercher tes choses.
Ça y est, non, je vais.
C'est bon, t'es prêt, t'es parti.
Tout à fait. Je vais vous parler d'un spectacle que j'ai eu la chance de voir à Canteleux, à l'espace culturel François Mitterrand.
Mais que ça dire hein.
Je crois que je n'étais pas le seul à cette table.
Comment ça puisque, j'ai eu cette chance également.
Voilà, puisqu'on a eu la chance de voir François Rollin. Le 5 février, alors même qu'il avait commencé ses représentations à l'Européen à Paris. Un décor épuré, deux brouettes et un bureau.
Voilà. Mise en scène assez sommaire.
Voilà, les seuls éléments de décor présents. Un spectacle basé sur un courrier des lecteurs qui habitent tous Brie-Comte-Robert.
Et ville en fait, qui a l'air, ma foi, fort sympathique,
voilà.
Brie-Comte-Robert.
Compte tenu de la nature des questions posées. Et en fait, voilà, en substance, et pour faire rapide, puisque l'entrepôt ne durera pas 4 heures cette fois-ci. Voilà, pour moi, Rollin, c'est le Garincha de la digression. C'est-à-dire que tu ne sais pas où il va t'emmener, tu pars d'une question et tu ne peux pas deviner où il va arriver. Quoi.
Ah ouais, non.
C'est vraiment fabuleux. Quoi.
Là-dessus, c'est ça qui est assez terrible, ouais. C'est qu'il peut partir sur un sujet hyper trivial, comme un sujet assez profond,
voilà.
Alors qui ont suscité quelques, je dirais, controverses, notamment la semaine dernière chez Ruquier.
Vidéo que j'ai pu voir.
Pour laquelle je n'ai pas été du tout d'accord.
Pourquoi ?
C'est mon point de vue.
C'est quoi ce sujet ?
En fait, je pense que, et moi j'y ai songé en voyant le spectacle, c'est-à-dire qu'il part parfois, il est parti sur certaines questions relatives à l'immigration, à l'identité, à la mondialisation, des choses comme ça, et je pense que c'est ce à quoi j'ai pensé en voyant le spectacle et qui s'est vérifié quand on entend notamment Émeric Caron, c'est que les gens viennent voir un spectacle d'un type qui est clairement estampillé de gauche, artiste France Inter, etc., et qui doivent s'attendre à des propos convenus sur ces sujets-là. Et il va sur des terrains où certains l'accusent de faire le lit du Front National. Moi, à mon sens, il est très clair dans ses propos lors du spectacle. En tout cas, lors du spectacle, il n'y avait pas pour moi de. Il n'y avait pas d'équivoque. C'est juste qu'il part sur.
Il part sur du bon sens.
Et il pourfend.
Sans être.
Et son spectacle est. Et il pourfend là, ce qu'il appelle la bien-pensance. Et je trouve que il y va, il joue, il va clairement dans la direction qu'il indique.
Oui,
alors, moi, je n'ai pas vu le spectacle, mais.
Merci, Didouille.
Non,
dans
mais
micro, Delphine.
Pour connaître, pour connaître le personnage, parce qu'on a vu un spectacle, tu nous avais prêté Nico,
colère.
Voilà, exactement.
Excellent.
Moi, je tenais à souligner, et c'est rare au niveau des comiques, parce que bon, ça fait partie des comiques, mais il a vraiment son style à lui, et c'est un orateur. Je trouve qui rebondit.
C'est un humoriste.
C'est un humoriste. Comique. Oui.
Un comique de la lignée de Michel Leeb et de. Et de
non, non, mais c'est vraiment quelqu'un qui a.
Michel Leeb qui ne faisait pas dans la
qui
bien
a
bon
le
sens.
Goût, qui a le goût d'utiliser bon les mots.
Voilà.
Et ouais, tu passes un moment absolument hallucinant parce qu'il utilise les mots, il joue avec les mots, il capte vraiment son public grâce à cette dextérité. Et puis honnêtement, donc il intervient sur France Inter dans une rubrique qui avec des chroniques qui sont vachement sensées. Si on lui prête des propos comme ça, c'est parce qu'il faut créer la polémique, c'est pas possible autrement parce que
il était puant Caron, moi c'est mon point de vue.
Mais après tu te demandes quelle est la part de il faut absolument dégommer ou bousiller ou ce que tu veux, parce que j'ai rarement vu Émeric Caron positif dans ses interventions, ou alors il faut que tu sois végétarien. Bref,
quand tu vois le spectacle, tu te dis quand même que les propos vont certainement surprendre certaines des personnes qui sont dans la salle.
Oui, mais ça veut dire que tu ne connais pas forcément l'univers de Rollin, ou en tout cas sa façon de manipuler le mot.
Pas forcément, c'est juste que Tu restes dans une posture qui est justement, attaquée par Rollin, de la bien-pensance, où tu penses à la place des autres, où tu te mets à la place des handicapés, tu te mets à la place
bien ce que
des
je dis,
noirs,
c'est parce que tu
te mets à la place des minorités en te disant...
Tu n'as pas perçu vraiment ce qu'était le personnage, ou en tout cas le propos que cherche à véhiculer Rollin.
Caron ne semblait pas l'avoir totalement vécu.
Alors
bien
que,
vécu,
je ne sais plus comment s'appelle, l'autre nana
Léa Salamé.
Léa Salamé, elle avait adoré le spectacle.
Je
ne dis pas que je suis d'accord à 100% avec Rollin sur ses...
Non, voilà,
mais il ne part pas d'un... Ça reste un humoriste.
C'est un peu comme Dieudonné. Dieudonné ne fait pas autre chose. Pardon.
On ne va pas rentrer dans ce débat-là.
Je plaisante.
Ça va,
on relax tout le monde là. Relax les gens.
Allez.
Mais en même temps, réduire le spectacle à ça, enfin, ça serait vraiment réducteur parce que par ailleurs, il y a des choses sur la taille des petites cuillères, sur le paprika, sur la coriandre. Des trucs complètement. Une biche à Cologne qui revient régulièrement. Et c'est vraiment. C'est
le spectacle est terrible, avec une mise en scène minimaliste.
Ouais. Mais très efficace.
Mais efficace, et effectivement.
Parce que le propos se suffit à lui-même, mais il n'y a pas forcément plein de fioritures autour.
Il y a l'intelligence d'écriture et
bien
du texte.
Sûr.
Voilà. Mais en tout cas, non, on a passé un bon moment.
Très bon moment.
À Cantleux, dans notre petite cambrousse rouennaise.
Formidable.
Et
donc, quand je dis Garincha pour nos invités qui sont de Boulogne-sur-Mer, peut-être qu'il faut que je dise Franck Ribéry. Mais...
<Les salons. rire> Après avoir parlé.
Sans faute, tu sais.
Beaucoup. Quand même, on a quand même parlé. Maintenant, on va peut-être un petit peu écouter.
Les invités.
Donc voilà.
Les invités.
Grégory Barco et Bertrand Desgremont. Raiders, oh my really, really, oh my goodness. Raiders, oh my goodness. Real secondary wave. Nous avons fixé une doctrine. Raiders, oh my really, really, oh my goodness. Raiders, oh my goodness. Real secondary wave. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous avons deux invités. Quand j'ai connu Grégory Barco il y a 20 ans, il se prédestinait à des études scientifiques. Il a d'ailleurs obtenu son diplôme de biochimie quelques années plus tard. Mais ce qui l'a toujours fait vibrer, c'est la comédie. Grand amateur de cinéma, j'avais l'impression qu'il passait ses journées dans les salles obscures. On s'amusait aussi beaucoup à l'époque à tourner de petits films humoristiques. Dès l'obtention de son diplôme, il s'est installé à Paris afin de se donner toutes les chances d'atteindre son rêve, jouer la comédie et en vivre. Il s'inscrit au cours Florent et l'aventure commence. Quand Bertrand Desgremont, De Grémont, était petit, à chaque réveillon...
Pauvre, ça va être un massacre.
Il est chiant ton nom.
Tu veux pas changer de nom?
Mais l'accent que tu veux, c'est pas grave. Moi, j'appellerai Entremont. Moi.
Quand Bertrand Entremont était petit, à chaque réveillon, avec ses cousins et cousines, il jouait un petit spectacle avant la venue du Père Noël.
Mais comment tu sais des trucs pareils?
Il distribuait les rôles, donnait les indications scéniques.
Attends, à l'Anthropode, on fait les carrières. Il y a
une
investigation et tout. Hein.
Il passe son premier casting à 13 ans et finit dans les 6
finalistes sur 3000 candidats.
C'est toi qui as dit.
Pas du tout.
Il commence les cours de théâtre à 15 ans, mais poursuit tranquillement ses études d'anglais et de littérature américaine. Il s'inscrit au cours Florent et l'aventure commence.
Waouh.
Tac. Alors, je suis dedans ou je suis pas dedans?
Bah, je suis impressionné là.
Le coup de balai et nous allons pouvoir commencer avec nos deux invités.
Ah, voilà. Ouais, bien le...
Donc après l'inscription au cours Florent, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment ça qui a lancé un petit peu votre carrière, ou est-ce que c'était déjà parti avant, ou est-ce que c'est parti beaucoup après?
C'est parti
comment
beaucoup
ça s'est
après.
Passé? Ah oui.
Ouais, ça part toujours après.
Allez, ça commence.
C'est pas faux, ça part toujours après.
Ça dépend. Après, moi, ça part souvent bien avant. C'est un peu mon problème. Voilà, mais le problème, c'est. Je suis à la fois one shot et avant.
Ah, Didouille, qu'en penses-tu?
Ah, mais je suis tout à fait d'accord.
Ok.
Ça, c'est...
Donc, messieurs,
bon,
c'est fait.
Messieurs, on vient à vous, les gars.
C'était quoi la question? Ah oui, après Florent.
Ouais, après Florent.
Beaucoup après Florent, alors. Juste, vous moi, savez, je peux rester un petit peu sur Florent.
Vas-y.
Cours Florent.
Ah bah, tu restes sur qui tu veux, mais...
Cours Florent. Alors, je sais qu'il existe Cours Florent gratuit et Cours Florent payant.
Non, en fait, c'est une école payante tout court, c'est tout. Sauf qu'à interne à l'école, il y a la classe libre.
La classe libre, oui, c'est ça.
C'est la classe élite, en fait.
Ah,
en fait,
oui,
une
d'accord.
Classe concours, c'est...
Il faut avoir déjà fait déjà...
Parle bien dans le micro, Greg.
Pardon.
Grégory, on va l'appeler Greg, hein, pour vous simplifier les choses.
Il faut déjà avoir fait la première année. Et une fois avoir fait ta première année, tu passes un concours interne. Et il y a les 20 meilleurs élèves, à peu près, qui ont passé
sur combien? Il y a combien d'élèves, Florent?
À l'époque, on était 1200.
Wow. 1300.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est
après,
la crème de la crème.
Après, pas, c'est pas... ça, c'est bien. Enfin,
tous ne passent pas le concours. Ouais. Et d'ailleurs, tu payes le concours. Mm-hmm. Il n'est pas gratuit. Et ensuite, oui, tu as 3 ans d'études gratuites.
Avec des intervenants, 3 étoiles et des choses...
Genre, c'est qui les intervenants, alors?
C'est les figures du théâtre, quoi. Ça peut être des gens comme Michel Faux, ça peut être plein de gens
d'accord.
différents, mais ça peut être Huster aussi, qui a créé... Okay. C'est lui qui a créé la classe libre, en fait.
D'accord.
Et il y avait Isabelle Nanty aussi, qui a été prof.
Elle a été prof,
ouais, à Florent, par
vous l'avez eu?
Non, c'était bien avant nous.
Non, c'est l'époque de... Édouard Baird.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Et si je dis pas de bêtises, Bertrand, tu as été prof au cours Florent.
Ouais.
Voilà, non, mais juste comme ça. Bah.
Oh la classe!
Quand même! Voilà, faut quand même remettre les choses dans leur contexte.
Et c'était quoi? Alors, quand on dit
toi aussi
cours Florent.
Pardon? Pardon, Greg. Toi, j'ai du mal à le croire, mais.
Je trouve que c'est humiliant. Alors... humilié, là.
C'est humiliant. C'est humiliant, je me sens mal.
Quand on dit cours Florent.
Donc, vous avez tous les deux été.
Non, mais dis-nous, il n'y arrivera pas.
Oui, tout à fait, Nicolas.
Mais j'imagine que vous avez des spécificités, parce que les cours, quand on dit cours Florent, il y a plusieurs profs, mais dans les jeux scéniques, dans, je sais pas, dans l'expression, dans la mise en scène, je sais pas, je sais pas comment ça se configure. Hein.
En gros, l'école, c'est, on va dire, une quarantaine de profs, grosso merdo, qui sont... après, on n'est plus à l'école donc, depuis un bon bout de temps, donc... C'est un peu abstrait depuis, mais tel que ça se passait et depuis sa création, c'était en gros une quarantaine de profs qui font leur théâtre à eux. C'est-à-dire que du coup, si toi et moi on est prof, on a peut-être une vision du théâtre contradictoire. Et c'est ça la qualité pour l'élève. C'est qu'il peut aller dans ton cours et dans mon cours, et il entendra une chose et son contraire. Et c'est ce qu'il faut pour qu'on soit
un acteur. Oui, bien sûr.
Et en marge de ça, il y a des cours qui sont la comédie musicale,
diction,
jeu en anglais, des choses comme ça, ou que certaines sont gratuites, certaines sont payantes. C'est toi qui...
Tu composes ton propre cursus, en fait.
Ouais. Composes ton cursus.
Ah oui, il n'y a pas un tronc commun, quelque chose
si,
avec...
si,
c'est classe principale de 9 heures par semaine.
Ouais, t'as 9 heures minimum par semaine.
Après, ça a peut-être changé depuis, mais...
Avec des formations de base.
Ouais, c'est-à-dire que quand t'es prof à Florent, que tu as ta classe, tu fais 9 heures et parti en 3 fois 3 heures.
D'accord.
Et il y a un programme et tu le remplis de ce que tu veux. C'est-à-dire le programme, c'est théâtre classique.
D'accord.
Tu mets ce que tu veux pour le jour de l'échéance où tu vas présenter quelque chose à un jury, tout ça. et c'est toi qui le remplis de ce que tu veux. Et c'est ça l'intérêt d'un prof, c'est que où il y a pas un, des stages pour préparer le prof, quoi. Mm-hmm. C'est,
ouais,
je suis choisi en tant que prof par rapport à ma théâtralité, mon regard sur le. Donc c'est le vrai plus de l'école. Maintenant, ça demande un sens critique de la part de l'élève aussi, parce que plus il va avancer, plus il va avoir ce qui est très sain, hein, un regard critique sur son prof.
Ah oui.
Voilà. Mais il faut avoir l'humilité, parce que quand on arrive, on veut tout apprendre. Et puis, au bout de 3 mois, on a l'impression qu'on peut tout jouer, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a commencé un travail, donc on se croit... voilà. Et il faut être dans une curiosité, quoi.
D'accord.
C'est plus ça, sinon...
Oui, Starlet.
Et donc, pour vous, prof au cours Florent, c'était pas une finalité, c'était pas la consécration. Vous n'êtes pas éclaté assez pour rester là-bas.
C'est pas une question de pas s'éclater, c'est...
Qu'au bout d'un moment, le pourquoi on fait ce métier a pris le dessus.
En fait. Ouais, c'est-à-dire, en fait, quand on est des provinciaux qui avons tout plaqué pour venir à Paris. Et t'attends tout, des cours Florent, puis ça coûte très cher en tant qu'élève. Et un jour, on a décidé de partir et de faire nos vies d'acteurs, alors qu'il n'y avait rien devant nous. Mais parce qu'on s'est dit, c'est pas. On s'était régalé à le faire, en fait. On s'était régalé à le faire, mais ça allait devenir malhonnête si on sentait que notre vie d'acteur, elle était devenue ça. On donnerait moins aux élèves. On deviendrait des acteurs aigris. Et je pense que tu es un bon prof si tu sais pourquoi tu es là face à tes élèves et que c'est ça ta place dans le métier.
Et si tu pratiques à côté.
Et du coup, j'imagine que vous avez énormément appris du fait de donner des cours aussi.
Ouais.
Les questions des élèves, etc., ça a dû vous aider.
On joue
beaucoup
avec nos élèves, en fait.
Ils sont devenus nos élèves. Question, en fait.
Pourquoi vous avez choisi le cours Florent en particulier? Parce qu'il y a le cours Simon, il y a tout un tas d'autres formations.
J'ai écrit pas mal de cours avant.
Ah oui, d'accord.
Moi, okay. Non, mais en fait, je vivais en Irlande à l'époque et c'était le plus connu. Et puis
D'accord, voilà. C'est pour savoir pourquoi celui-là plutôt qu'un autre.
Ouais, pourquoi, je sais pas.
Vous n'êtes plus prof ni l'un ni l'autre actuellement?
Non.
Non.
D'accord.
Non.
Et donc, vous avez fini votre professorat et vous êtes lancé dans... La construction, la mise en place d'une,
ben, en fait,
d'une compagnie, ou est-ce qu'il y a eu un petit intermède entre les deux?
En gros, on n'a pas enchaîné tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on était élève à Florent et puis après on a commencé à faire les premières pièces, comme tout le monde, c'est-à-dire les pièces en bout de ficelle où tu sais que ça va être ton métier, que tu veux vivre de ça, mais en fait tu n'en vis pas du tout,
tu as
un job alimentaire, tu payes ton train, tu payes ta salle de répète, tu payes ton accessoire, tu viens jouer et tu payes pour jouer aussi. Et en théâtre
tu payes pour jouer
à Paris, ouais,
tu loues les salles,
tu loues une salle,
oui. Tu loues les salles,
tu loues les salles, et puis si ton public ne vient pas, t'as un minimum garanti pour que le théâtre puisse tourner, c'est-à-dire si tu fais pas au moins, je sais pas, 480 par soir, tu leur dois 480 tous les soirs. Si t'es pas en production à Paris, t'as un ou deux théâtres qui font pas ça, mais sinon tout le monde fait ça. Enfin. Donc les premières années, c'est un peu...
Au moment où
ouais, c'est un peu à vide, quoi.
Quand vous avez choisi, c'était au moment où vous avez décidé de quitter le cours Florent. Vous avez plusieurs voies qui s'offraient à vous?
Non, mais t'as pas de voie qui s'ouvre à toi, en fait. En fait, si tu veux, l'école, elle te nourrit artistiquement, c'est tout, en fait. Ouais. Elle te prépare pas au métier. Et c'est bien, il faut pas, d'ailleurs. Enfin, elle est...
Non, je suppose qu'il y a mille façons d'appréhender ce métier, en fait. Ouais. Donc on peut pas l'apprendre.
Non, parce que l'économie du spectacle, elle change beaucoup. La façon dont elle se passe, même les directeurs de casting, même les agents, on parle avec les nôtres d'agents, en ce moment, ils gèrent pas la façon dont c'est en train d'évoluer. Ça change. Comment tu montes un projet, c'est compliqué, quoi. Et même quand tu as des sous et que tu es un gros producteur, ça change. Ouais, ça change beaucoup en ce moment. Et du coup, pour un acteur, quand tu quittes l'école, tu as mille façons. Tu peux passer des castings constamment, comme tu peux monter une compagnie. Il n'y a pas une façon, en fait.
Ouais.
Enfin, vraiment.
Quand tu dis que ça change beaucoup actuellement, c'est pour quelle raison? C'est quelle tendance?
Déjà, c'est au niveau des financements. Enfin, déjà, au niveau du tout ce qui est secteur public, t'as l'État qui enlève tout ce qui est subvention.
Qui les réduit, en tout cas, ouais.
Ouais, qui sont réduits. Quoique. Ouais, bref.
Passons.
Et en fait, du coup, ce sont les régions qui sont normalement amenées à financer tout ce qui est scène nationale, scène conventionnée, tout ça. Et le problème, c'est que les dotations baissent de plus en plus. Mmh. D'ailleurs, c'est mon petit coup de gueule. Allez.
Il est fait.
Voilà. Les dotations baissent de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus de salles qui ferment. Et donc, forcément beaucoup moins de structures, pardon, beaucoup moins de structures qui subsistent en fait. Et c'est exactement pareil au niveau des compagnies. Forcément, s'il n'y a plus d'argent dans les théâtres, il n'y a plus d'argent pour acheter les spectacles. Et donc, les compagnies ne peuvent plus
lancer le projet.
Voilà.
Ouais, et puis finalement, même dans le milieu plus parisien, télé, tout ça, au final, pour les mêmes raisons, ça a d'autres conséquences sur le choix de pourquoi tel film, pourquoi telle pièce, pourquoi tel acteur, surtout.
Ouais.
Maintenant, on prend de moins en moins de risques.
Il y a le côté bankable en fait.
Ouais. Bah, c'est un terme qui a été fabriqué en pièces par les gens concernés.
Ouais, rien d'autre. Mais on le sent bien.
Les films de Xavier Dolan ont prouvé que tu pouvais remplir une salle avec des gens inconnus. On n'a personne en disant ça. Mais... non, mais c'est un concept que le métier lui-même a créé. C'est sa propre, il s'est créé sa propre faiblesse. Quoi.
Et vous, alors, vous avez décidé de créer votre en sortant de Conflans, donc de créer votre compagnie à ce moment-là. Vous avez décidé de...
Ouais.
Comment ça s'est passé, en fait, concrètement, comment on se dit, tiens, allez hop, on crée notre compagnie, on y va. Et...
Pour aller en continuité de Ludo, vous avez créé votre compagnie et pas sur Paris. C'est-à-dire que vous avez décidé de...
Si.
On
va la jouer honnête.
Racontez-nous.
Dites-nous tout. Qu'est-ce à dire ?
Voilà.
Parce qu'en fait, la compagnie est dans le Pas-de-Calais et elle est vraiment dans le Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'on y vit à moitié, mais en fait, on a une vie d'acteur, donc on est aussi à Paris. Donc ça complique la. On est trois, faut le dire, dans la compagnie. On est deux.
Héloïse, c'est ça ?
Il y a Héloïse Lowe avec nous, on est trois.
Qui est avec
d'accord. Et en gros, ce qu'on a fait pour reprendre ta question, c'est qu'après les cours Florent, on a tout de suite joué pour d'autres gens, mais pareil, dans des pièces. Tu payes pour répéter, tu payes pour jouer. Mais c'est le jeu.
Tu payes pour répéter, putain.
Ah ouais, pour le local, tu payes.
Oh, tu partages les fous.
Pas comme en musique, non.
Ah oui,
oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais
ça choque, tu sais, ça nous choque pas au début. Enfin, on sait, quoi. Personne t'attend, tu fais ton truc, quoi.
Et ça, c'est parce que t'es à Paris ou ce serait pareil ailleurs ?
Non, ailleurs, c'est plus simple. Les rencontres sont plus simples.
T'as moins de frais.
Ouais, t'as moins de concurrence.
Mais t'as moins de rencontres.
Ah bah. Tu vis pas du métier de la même façon, de toute façon. T'as moins de risques de vivre de ton métier, moins de chance. On va dire. Mais du coup, on a commencé tous les deux à travailler gratos, mais à se faire une expérience. Okay. Et on s'est rendu compte qu'on avait envie d'avoir notre espace de liberté à nous, c'est-à-dire créer notre truc, quoi.
D'accord.
Et on sortait de Florent où, la fin d'un parcours à Florent, tu montes ton propre projet, ton propre spectacle. Okay. Donc on avait un spectacle en main. Et on s'est dit sur ce.
Qui est un c'était texte, lequel
c'était un
cette nuit-là.
D'accord.
De Amine Mahalouf.
Qu'on a vu
externe. Ouais, on est venu voir. Ça, donc on était fiers. Et du coup, en ne connaissant rien à rien sur comment fonctionne une compagnie de théâtre, ou même le métier tout court, on s'est retrouvé à Casablanca, à Beyrouth, etc.
C'est chouette, ça.
Parce que Mahalouf, en fait, le nom était porteur.
Quoi, la tête,
je doute.
Et c'était quand ? Pour juste situer chronologiquement.
En 2007.
D'accord.
Ouais, 2007. Ouais, c'est ça, en 2007. Mm-hmm. C'était ta mise en scène. Mm-hmm. Et elle nous a porté chance, c'est-à-dire qu'on a tout de suite été dans une expérience, et puis très forte, sans rien connaître au métier. Et puis dès qu'elle s'est terminée, on s'est rendu compte que... qu'on n'y connaissait rien et que maintenant il va falloir enchaîner sur la suite et que être à Paris n'avait aucun sens en tant que structure de théâtre.
Pourquoi ? En tant que compagnie.
Parce qu'il y a trop d'acteurs, trop de compagnies, trop de scènes nationales, trop de monde. Et que nous, si
on. Un parmi tant d'autres, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et puis pour faire déplacer les institutions et les professionnels, ils sont tellement sollicités que c'est impossible.
Donc il vaut mieux chercher du. Si on résume, il vaut mieux chercher du financement en région, là où.
Ouais.
Là où les institutions susceptibles de financer sont moins sollicitées. Quoi.
Ouais, c'est beaucoup plus simple.
Ouais, mais en fait, très honnêtement, moi, ce que je croyais au début, c'est que délocaliser une compagnie allait nous.
Nous handicaper ?
Faciliter. Non,
vous faciliter les choses.
Ça nous handicape, non, ça complique la vie parce que tu dois être en tant qu'acteur à Paris et puis en tant que structure ailleurs, mais au final, en fait, c'est très bien parce que tu quittes Paris un peu. Mais. Moi, au début, j'avais pas mesuré ce que ça allait vouloir dire. C'est-à-dire que je pensais que ça allait nous aider financièrement. Mais en fait, non, c'est que ça nous aide artistiquement. C'est-à-dire que je fais mon travail toute l'année. Je vis de mon travail toute l'année. C'est-à-dire que je suis tout le temps en stage avec des scolaires, ou en répétition, ou en représentation. Mm-hmm. Mais à Paris, je galérerais pour avoir 20 dates dans l'année, alors que là, on est intermittent par nous-mêmes, en fait.
Et donc, parlons finance un petit peu, là, vous en parlez.
Donc vous êtes trois. Comment ça se passe? Vous rémunérez par rapport aux prestations ou vous versez un salaire mensuellement? Comment ça se passe?
Non. En fait, on est sous le régime intermittent. Donc on doit faire 507 heures en 10 mois et demi. Et
les feignasses, putain. Sans déconner.
Moi, je l'ai fait en 15 jours. Quoi. 507 heures, 15 jours.
Et du coup, on se paye au niveau des en prestations, en fait.
D'accord, donc il y a aucun système. Voilà.
Et de toute façon, on n'a pas les moyens de se mensualiser parce que la compagnie n'est pas encore non plus une compagnie nationale avec les subventions nationales. On est pour l'instant encore au niveau régional. Donc on n'a pas non plus les moyens.
Donc c'est des cachets quoi.
C'est
non puis oui et puis on a à côté une vie d'acteur qui fait que c'est quand ça. Tu tournes à la télé tu t'es payé en cachet donc l'un dans l'autre ça fait enfin.
D'accord.
Parce que il y a des stages aussi puis aussi vous donnez des stages.
Ouais. On fait un ancrage territorial, on est vraiment présent dans le Pas-de-Calais, dans ce beau pays.
Motivé les mecs.
C'est chez nous donc on le voit pas pareil que vous mais enfin voilà quoi et c'est ça s'est créé comme ça, c'est à dire qu'au début tu même arrivé une fois sur place. Tu obtiens tes premiers achats en tant que compagnie sur un spectacle que tu crées. Pareil, là pour le coup, tu n'es plus à Paris donc tu ne payes plus pour répéter, mais tu le fais gratos. Quoi. Donc, à défaut de dépenser de l'argent, tu n'en gagnes pas. Et puis de créa en créa, tu te fais acheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu finances grâce à ces achats. Et puis après, d'un seul coup, les institutions, c'est-à-dire conseils généraux, conseils régionaux, viennent. Et là, ça y est, les subventions arrivent et là, tu te professionnalises vraiment.
Le bouche à oreille joue vachement quand même dans cette histoire-là.
Ouais, entre professionnels, ils parlent énormément. Ouais.
Vous avez un réseau
de toute façon, dans le milieu artistique.
Non,
aucun réseau.
Pas de patrimoine.
Vous êtes d'accord avec zéro réseau, quoi. En fait.
Ouais. À aucun niveau, c'est-à-dire pas ni à Paris, ni en région. D'accord. Ni en institution.
Enfin, de plus en plus quand même, maintenant, vous avez quand même du réseau artistique.
Oui, au départ.
Ah oui,
au départ, d'accord. En fait, okay. Dire. Oui, Didouille.
Oui, alors là, on est en train de parler du côté très. Pragmatique, matériel,
laborieux,
qu'important.
Là, vous êtes trois à l'initiative donc, d'une compagnie. Qu'est-ce qui fait que les trois décident de la créer? Avec quel objectif? Puisque comme tu expliquais tout à l'heure, Bertrand, vous avez donc des affinités ou en tout cas des jeux d'acteurs totalement différents. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la création est possible à vous trois et dans quel objectif?
Tu as le choix de la pièce ou ce chose-là?
Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut
le
une force.
Pourquoi
voilà,
ces trois-là?
Voilà.
Le sens de nous trois, en fait, il s'est fait au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'elle nous concerne.
Merci.
C'est pour une fois,
vous lui dites jamais ce genre de
choses. Vous avez de la chance, ça tombe pas souvent. Quand même. 20 ans, j'ai eu le malheur de lui dire ce genre de choses-là et ça m'a coûté très cher après.
C'est enfoiré. C'est vrai, ça m'intrigue.
Après, tu as des évidences dans les rencontres qui font que. Donc, Héloïse, c'est une très bonne actrice, elle n'est pas metteur en scène. Alors que Greg et moi, on alterne entre jeu et mise en scène. Donc, déjà, ça nourrit le rapport interne qu'on a dans l'équipe parce que parfois, on est face à un texte et on sait qu'on va pouvoir le monter parce que l'un de nous a l'imaginaire pour le mettre en scène. Et Marie, elle est une actrice qui a un jeu.
Héloïse, elle a un jeu.
Héloïse a un jeu qui nous plaît énormément, qui est très riche. Elle a un physique aussi qui fait qu'elle peut être toutes les femmes.
D'accord.
Non, après, nos différences, de toute façon, c'est ça qui fait notre force aussi, parce que ça nous est déjà arrivé de discuter pendant des heures autour d'un projet pour au final se dire. Qu'on ne doit pas le monter parce que...
Mais oui,
c'est voilà. Ouais. Oui, et puis on ne fait pas tous nos projets à trois. C'est-à-dire que, par exemple, on a...
sans blague. Projet et pas plan.
Sans blague graveleuse, Starlet.
J'ai rien dit, j'ai juste poussé. Bon.
Non, mais on t'entend dans le micro. Pose ton micro.
On a mis en scène Le Vol, par exemple, de Sonia Nemirovski, justement.
Excellent.
Et Héloïse n'est pas dedans parce que... Face au texte, moi, je savais qu'il y avait quelque chose à faire, mais en tant que metteur en scène, je savais que lui, c'était pour lui, le texte. Mais la fille, ça pouvait pas être Héloïse. Enfin, il y avait quelque chose dans l'emploi, dans mon imaginaire, à partir du moment où c'est moi qui fais la mise en scène. C'est pas parce qu'on est un trio qu'on doit tout faire ensemble.
Donc et le vol a été diffusé sur France O. Ouais. Vraiment, je ne sais pas si on peut le revoir.
Le vol, c'est toi qui l'as mis en scène, ouais. Avec Grégory en acteur. Et donc, la personne qui joue avec toi, Grégory, c'est...
Sonia Nemirovski.
Qui est aussi l'auteur.
Mais c'est celle qui a écrit. Qui a écrit, pardon.
C'est écrit. Magnifique. J'ai pleuré.
On joue tout le mois de juillet au Lucernaire à Paris.
Ah, c'est magnifique.
Attends, où tu le joues, tu dis?
Au Lucernaire à Paris.
Au Lucernaire.
Normalement à confirmer.
Et Grégory me disait qu'il était en plus disponible en vidéo, peut-être.
Oui, il est
à vérifier.
Disponible en DVD chez Axe Sud.
Enfin, nous, on a vraiment.
Quand
c'était passé sur France 3.
J'ai pas accroché tout de suite le début.
France, oh, pardon. Ouais.
Le début, je vous le dis honnêtement, j'ai.
Bah, faut rentrer dedans, c'est mystérieux.
C'est pas du théâtre de boulevard, quoi. Hein. Il faut quand même rentrer dans le.
Vous avez un théâtre assez.
Élitiste.
Attends, ça change.
Non, mais c'est pas une critique d'ailleurs.
Non, pas du tout.
On met quand même
15-20 minutes à rentrer dans la pièce. Enfin, moi, pour ma part, j'ai mis 15-20 minutes à rentrer dans la pièce, mais une fois que je suis rentrée, j'en suis pas ressortie. J'ai chialé toutes les larmes.
Le vol, c'était vraiment magnifique.
Bon dans son rôle, et Sonia aussi, vous étiez magnifique. Merci. C'était très très beau. Ouais. Très 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 beau. Merci. Je vous le conseille, vraiment. T'es happé à l'intérieur de très très profondément.
Je sais pas si vous avez l'occasion de le voir.
Pas encore, justement. Mais
Inaccessible, c'est vous aussi, ça.
Inaccessible, c'est nous en ce moment, ouais.
C'est en ce moment ?
C'est en ce moment, ouais.
C'est le 18 mars.
Moi, c'est ça que j'aimerais bien aller voir, parce que j'ai vu pitcher tout ça, et puis je me suis fait, oh putain, c'est ce genre de choses que je devrais aller voir.
Le 20e théâtre.
Mais toi, faut que tu m'invites.
Au 20e théâtre, ouais.
Le 18 mars.
On y va ensemble.
Ouais. J'ai vu. Ouais. C'est un mardi soir, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, exactement.
J'ai vu ça.
Avec une danseuse, avec un plasticien.
Oui, parce que la mise en scène est quand même toujours pareille. Donc l'héroïne s'appelle Léonore, c'est ça ?
Oui, dans les
danser.
Non, mais oui, on apporte de toute façon. C'est notre point commun dans nos mises en scène, que ce soit Greg ou moi. La mise en scène et la scénographie, le travail avec la lumière, c'est l'équivalent
c'est
d'un acteur.
Pour ah pas, oui, c'est énorme. La lumière, les. Il y a un dessinateur aussi sur une des pièces.
Le vol,
il y a l'histoire avec les chaussures aussi. Tous ces
ah oui, non, mais
ces histoires-là, enfin.
Vos mises en scène sont magnifiques. Et
pour Inaccessible, il y a une seule représentation ?
Non, enfin à Paris.
À Paris.
Parce que là, on en a fait une trentaine.
Après, vous partez en tournée ?
En fait, c'est ce spectacle-là qui est sur la fin. Là, il nous reste une date à Paris et une date dans le Pas-de-Calais. Et pour l'instant, ce spectacle-là.
Ça s'arrête
parce qu'on a la suite, on a le vol qui reprend et on en a un autre derrière qui va être assez costaud aussi.
C'est Noce, c'est ça, non ?
Ouais, mais c'est
du comédie. Sur votre site,
ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a le site qui va être de la Porte comédie, au Trèfle qui donne quand même une vision sur ce qui va se faire dans les mois suivants. Ludo, vas-y, oui, tu veux dire ?
Non, je veux savoir, une pièce comme le vol, par exemple, c'est combien de temps de préparation pour arriver entre le moment où vous choisissez le sujet et au moment où vous dites ok c'est bon.
Généralement, tu commences les répètes un an après avoir choisi le sujet. En gros, on choisit notre pièce.
Ben ouais, de toute façon après il y a d'abord l'apprentissage du texte et tout ça, donc il faut laisser le temps.
Et puis ça sert à rien de répéter une pièce si tu sais que tu vas pas la jouer, parce qu'on est dans un cadre professionnel aussi. Mm-hmm. Donc en fait tu vends quelque chose qui n'existe pas d'abord.
D'accord. Ah, donc, déjà oui.
Tu conçois un dossier sur une pièce qui n'existe pas du tout. Et tu demandes des subventions sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est seulement après que tu... Quand tu as tes premières dates qui tombent, que tu dis, OK, bon, bah, maintenant, on peut répéter puisqu'on l'a vendu.
Et ça marche. Ça veut dire qu'en
Mais
fait...
Mais tout le monde fait ça, c'est normal.
Ça veut dire que les toutes premières fois, donc c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, quand vous avez commencé à jouer sans les subventions. Parce que j'imagine que quand vous faites des demandes de subventions, c'est parce que vous avez derrière une...
C'est pour un projet que tu demandes.
D'accord. Mais vous êtes en mesure de dire, on a déjà fait ça, ça, ça et ça, en fait. Oui, ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Tu prouves ton parcours. Tu n'as pas de subvention, en tout cas en service culturel, les 3-4 premières années d'existence.
Okay.
Parce qu'il faut que tu prouves que tu vas...
Il faut t'étouffer en termes d'existence et de public, en tout cas de...
Oui, c'est ça, parce que le nombre de compagnies d'assaut qui se créent par an, c'est hallucinant. Mais elles s'éteignent très vite parce que ça te demande, nous, ça nous demande de faire un travail qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire tu fais de la compta, tu fais du mailing, du public postage, de la communication. Cette semaine, on était en rendez-vous avec plein de directeurs de théâtre à Lille. Enfin, on n'arrête pas de... Tu fais tout ce qui n'est pas ton métier au départ, c'est-à-dire le côté je suis sur scène et je fais l'acteur. Quoi. Mm. On fait tout ça, ce qui te met aussi du plomb... Donc ça t'ancre d'un peu.
Mais en même temps, c'est très chronophage. Donc dans vos carrières respectives, au niveau du cinéma ou dans le métier d'acteur, ça implique quoi ?
Genre, ça range.
Ouais, l'avantage d'être à trois, c'est que ça nous est même déjà arrivé de mettre en scène une pièce dans laquelle je joue, où j'aurais dû jouer, et puis ben, on avait 8 dates de vendues, et d'un seul coup, j'ai réussi un casting qui me propose 114 dates.
Ah oui, donc on peut parler de cette pièce-là.
Ben oui.
C'est la pièce, la pièce de Ruquier. Ouais. Parce qu'elle le
vole bien.
Parce qu'elle le vole bien.
Parce qu'elle le... Oui, moi aussi, je l'ai oublié. Parce qu'elle le vole bien. Oui,
ouais, voilà, c'est
en
ça.
En fait, on jouait un Claudel, et c'est pour ça qu'on aime aussi les textes. C'est que notre métier nous amène aussi sur des choses qui ne sont pas notre affinité naturelle, et c'est génial parce que ça...
Oui, ça vous ouvre des horizons et un jeu d'acteur. Enfin, ouais. En tout cas, un jeu de comédien totalement...
C'est ça. Et c'est là où on répétait du Claudel, l'annonce faite à Marie. Et d'un coup, je me suis retrouvé parachuté chez Laurent Ruquier.
Là, t'es dans du contemporain.
Et oui, qui m'était étranger. Et
oui, mais boulevard, tout redescend quand même.
Oui, non, mais c'est ça.
T'es tous les soirs face à une salle pleine où les gens, ils ont payé bonbon leur place. Et t'as intérêt à te remettre en question et à pas faire ton acteur qui joue du Claudel. Et te dire, non, là, il faut être ailleurs, quoi, dans un autre endroit. Et c'est hyper intéressant.
Et quand tu dis parachuté, justement, par quel biais tu te retrouves ? C'est ton agent qui...
Ouais, parce qu'un jour, mon agent m'avait fait passer un casting pour une pièce que je n'avais pas eue, mais Jean-Luc Moreau, qui faisait la mise en scène, s'est rappelé de moi en disant, j'avais vu un mec.
Oh la classe, Jean-Luc Moreau, merde.
Et du coup, voilà, tu te retrouves parachuté sur un coup de fil.
Quand j'étais petit.
J'ai dit non pour nous.
Bon, et tu sais que nous, du coup, pour la petite anecdote, on est allé voir Bertrand. Et après, donc, on est allé boire un coup au café d'en face, et il y a, j'ai oublié son nom.
On s'est retrouvé avec Armel.
Avec Armel.
Armel,
qui est leur taper la bise.
Qui était dans Caméra Café, etc. Voilà. Je ne sais plus son nom de famille, mais malheureusement.
C'est son nom de scène.
C'est son nom de scène.
Voilà.
Et d'accord. Les enfants de.
Donc on se retrouve en face du théâtre où vous étiez, enfin avec vous d'ailleurs.
Saint-Georges.
C'était très simple.
Bah, vous, ça doit vous paraître un peu bateau, mais nous, c'était vraiment rigolo.
Et
parce que
pour nous, les provinciaux, se retrouver là avec.
Avec nos bottes en caoutchouc pleines de merde. Voilà.
C'est on était à table quoi, normal. Ouais. Non mais c'est tout con. Les gens ont envie d'échanger en fait quoi.
Mais en fait ils sont comme toi et moi. Comme vous, la preuve.
Vous en êtes le premier exemple.
Ah bon, c'est parce que j'ai cru à un moment que vous faisiez pas caca comme tout le monde. Aussi, rassurez-moi.
Eux ils sont pas là. Greg fait pas caca comme tout le monde.
C'est pas mieux alors.
Mais c'est particulier. C'est compliqué pour lui. Pour les autres, je sais pas, mais pour lui, c'est compliqué.
Moi aussi, j'ai une poche plastique, je t'explique.
Ouais, mais une bonne, en fait, j'ai pas de marque. Tu sais qu'il va avoir des grèves de tête.
Ça, c'est génial. Il y a un mec qu'on a parlé tout à l'heure.
Échangez-vous les marques de poche, quoi.
Mais c'est vrai que.
Moi, c'est pas ça.
Vous avez dit vous-même que. Bah, tu te retrouves au même endroit avec Laurent Ruquier. C'est des gens qui vont être à l'écoute de leur public parce qu'on ne se rend pas compte vu de l'extérieur. C'est des gens qu'on entend, qu'on voit à la télé, qu'on voit dans plein de trucs. Et eux, ils ont une autre vision.
Nous, on n'était pas confrontés au Ruquier de la télé, on était confrontés
au théâtre.
Voilà. Donc, c'est pas le même. Enfin, nous, on a joué avec lui parce qu'il a joué au final dans la pièce alors que ce n'était pas prévu au départ. Mais... Et très honnêtement. L'homme de télé parce qu'on a joué tous les deux en fait le même rôle d'ailleurs.
D'accord.
En alternance.
Est-ce et que t'étais pris ailleurs
parce qu'après je suis parti sur un tournage.
Je fais le bouche-trou.
Alors il faut dire que Greg, j'ai pas l'impression qu'on l'ait dit, il a été le répétiteur de Ruquier.
Il fait le bouche-trou, voilà. Mais quand même. Pas, il a quand même
bouche-trou, mais qu'à moitié.
On a connu pire comme bouche-trou, ça va.
Ruquier au réveil.
Cela ne nous regarde pas.
Mais du coup, qu'est-ce que je disais ?
Non, tu es
l'avais joué tous les deux.
Que, tu es parti quand.
C'était pas du tout l'homme de télé. On n'a pas été confronté à cette. On a plus vu ça quand tu es dans les loges après la représentation et que le monde de la télé débarque pour dire bravo, bravo. Mmh. Et là, tu observes un monde, mais qui n'est pas le nôtre. C'est pas les acteurs. C'est un monde de télé, d'animateurs.
Ouais.
Voilà. Et on est nous-mêmes restés étrangers.
Ça me fait penser à mon coup de cœur.
J'ai une question. Tu disais tout à l'heure, quand on a joué Claudel, passé à Ruquier, c'est un temps d'adaptation. Comment il se trouve qu'on vienne vous chercher, vous qui faites du Claudel, pour venir jouer du Ruquier ? Et comment vous adaptez en fait comment
vous sentez Jean-Luc Moreau.
Oui, je sais. Mais, c'est pas
non,
qui.
Mais,
c'est
et j'irai un peu plus loin.
C'est comment,
mine de rien, c'est que tous les deux. On va pas vous
c'est
mentir.
Pas qui,
c'est vous êtes passé effectivement de Claudel à pour Bertrand Plus belle la vie, puisque tu as joué à Plus belle la vie.
Joséphine Ange Gardien.
Entre autres, Joséphine Ange Gardien.
Ouais. Oh, j'ai putain, pas Julie Lescaut.
J'ai pas tout retenu. Grégory a joué dans
RIS.
Enfin, la série section de recherche.
Publicité pour le beurre président Bridellis.
Elle est vire.
Elle est vire.
Fromage frais.
Non mais
presque
voilà,
pour c'est que Orangina.
Vous avez un petit peu des trognes qui peuvent parler à des gens qui peuvent potentiellement nous écouter. Et comment on passe de l'un à l'autre?
Ben parce qu'on n'est pas assez sans... connu pour être catalogué, tout simplement.
Non mais voilà, et c'est ça l'avantage. C'est que vous ne focalisez pas sur une seule et même activité. Non. Vous êtes prêt et enfin c'est pas du tout un reproche. Hein,
ah mais non, mais ça n'est pas.
Non mais.
Mais nous, c'est assez confortable de vivre de notre métier, de faire se chasser-croiser entre des pièces avec des productions comme celle-ci ou des productions comme les nôtres qui sont plus confidentielles. Et puis d'aller sur de la télé dans des univers qui ne sont pas les nôtres au départ.
Et ouais. Vous avez d'ailleurs été très salaud. Parce que pourquoi moi, à cause de vous, j'ai regardé quelques épisodes de Plus belle la vie.
Ah, putain, ouais. Grave. Et on s'est fadé 3-4 épisodes, je crois, en entier. Donc après, je me le suis fait en replay.
Delphine m'a dit, ah, il y a Bertrand qui passe dans Plus belle la vie, il faut regarder ce soir. Rien, c'est pas ce soir, c'est pas demain, c'est pas vraiment.
Oh là là, la gueule. Mais après, non, parce que quand même, pour l'anecdote,
oui.
Bertrand est le parrain de notre fils.
Oui.
Ouais, c'est... t'es trop fier en fait. Non, et le jour de l'anniversaire de Jules, Bertrand nous envoie un texto. Je suis au fond d'une fausse cellule en train de jouer une scène pour Plus belle la vie. Donc, j'aurais bien aimé être là, mais je peux pas être là.
Oui, c'est
du coup,
prison,
fallait absolument, ouais, non, mais il fallait absolument qu'on voit l'épisode et puis qu'on l'enregistre pour Juju. Et donc on l'a guetté, mais putain, on a dû s'en
faire.
Jules. On a dû s'en faire des 4.
C'est génial votre vie en fait, un peu.
Non, mais on a dû se faire des 4-5 épisodes de Plus belle la vie.
Je suis dans Plus belle la vie, on est obligé de la regarder. Moi je connais ma femme, c'est pas mal comme star.
Est-ce que c'est Plus belle la vie aussi?
Enfin, chacun a son avis sur la série. Moi, je la connaissais pas avant d'y aller, mais en tant qu'acteur, c'est hyper intéressant parce que ça, le rythme de tournage.
C'est la merde, apparemment, quand même. Hein.
Non, mais comment ça se passe les dialogues sont différents la veille, c'est pas
non,
ça.
Non, c'est écrit en amont. Il y a une équipe, etc. Bien. Mais
toi, tu les apprends la veille.
T'as pas d'état d'âme, quoi. Tu peux pas. Tu viens pas avec ton assistant. Mm-hmm. Tu viens pas avec tes petits caprices. Tu viens pas avec ta fatigue. Tu te prends en charge.
Tout le monde est au même.
Et tout le monde dans la série, que ce soit celui qui a un jour de tournage ou celui qui a depuis 10 ans, tout le monde est au même régime et dans la même façon d'être traité. Et ça, c'est génial, parce que du coup, tu te prends en charge. Si t'es stressé, eh ben, tu prends sur toi. Tu te prépares d'autant plus. C'est à toi de gérer. T'es pris. Tout le monde est au même niveau. Et pour un acteur, c'est génial, en fait.
Ouais, c'est une autre école.
Parce que du coup,
encore.
Tu gères ton stress. Tu apprends à te connaître. Ouais, c'est une autre école, parce que ça a aussi des défauts aussi, mais bien sûr, parce que le rythme est tel que tu creuses pas autant que toi tu sens que tu pourrais
creuser.
Mm-hmm. Que tu pourrais creuser. Puis du coup, ça va dépendre de ton partenaire, comment il a préparé les choses aussi.
Ouais.
Mais pour la préparation, puis le rapport à la caméra, l'efficacité, cette série à tourner, moi j'ai.
T'as appris beaucoup de choses.
Ouais, j'ai vachement appris. Choses, ouais.
Donc toi, tu es Maxime pour les gens qui pourraient nous écouter.
J'étais
Maxime.
Il est mort. Non,
il est en tôle.
Il est en prison, vous suivez pas ou quoi?
Peux-tu me confirmer quelque chose? Parce que hier, sachant que je venais, et ayant ma belle-mère et ma mère à portée de main, et qui regarde Plus belle la vie,
non, mais voilà.
Je leur ai montré ta photo et elles m'ont dit que tu étais un prof de fac.
C'est
un
ça, peu
exactement,
chelou,
spécialisé dans Aragon.
Voilà, et donc ce qui est effectivement mon frère.
Donc tu es prof de fac.
Dis la chance
avec ses élèves.
Le salaud.
C'était justement un signe de la résumé.
Qui couche avec ses élèves jusqu'à ce qu'elle meure. Ouais.
Oh putain!
Voilà. Ah oui!
En fait, il y a une vraie crevure là-dedans.
Rôle de composition.
Écoute. Hein.
Ouais.
Je crois que Didouille, une question à poser, ça fait.
Didouille, ouais, tu as
le. Je vais être discipliné. Non, tout ça pour
moi,
dire.
Non, je dirais pas ça. Mais...
Vas-y. Si, si. Non, mais par rapport à ce qu'on disait, quand tu parles de complexe d'infériorité, quand tu vois des gens.
Ça,
parce que. Oui, tu as sorti le terme de complexe d'infériorité et Starlet a essayé de dire qu'elle ne dirait pas ça. Mais je pense que... Moi, j'ai vu Birdman aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un acteur, machin. Moi, mais je pense que clairement, ce que vous voulez, c'est jouer, c'est être acteur et pas être célèbre. En fait, c'est pas ça qui vous importe.
Si on veut
la
célébrité.
Ah bah, c'est pas la célébrité.
Laissez-le parler. vas-y. Ouais.
Non mais la célébrité, c'est une conséquence de ton travail. C'est pas un métier en soi. Donc si ça arrive, ben voilà, c'est tout. Mais tu travailles pas pour. Tu travailles pour jouer.
Après,
pour
vous voulez. Vous
mais
non,
mais en même temps, c'est un vrai sujet parce que ayant été élève et prof au cours Florent, on a vu ceux qui n'ont pas cette analyse et qui ont été happés par les photos du tapis rouge et qui pensent qu'être acteur, c'est être en photo sur un tapis rouge, en fait.
Voilà, c'est là.
Et en fait, c'est pour ça que ce que tu dis est un vrai sujet, parce que ces gens-là, ils sont la moitié d'une classe quand tu arrives à Paris.
Ah ouais, donc, c'est énorme en fait. C'est la moitié d'une glosse, c'est
quand
énorme.
Quand je dis la moitié, c'est parce que je sais qu'on va être diffusé, qu'il faut être poli.
T'inquiète pas, on n'est pas diffusé non plus.
Moi, j'ai été au cours Florent en 2003.
J'ai du buzz.
2002, on est trois aujourd'hui de ma classe de première année à vivre de ce métier et à faire ce métier. Ah ouais. Ouais. 3 sur 30. Et je trouve que c'est normal en fait. C'est parce que c'est pas une question de capacité, une question de savoir-faire, c'est aussi une question, c'est une question d'endurance.
Et d'investissement de soi aussi.
Oui, mais parce que il y a eu dans notre époque une Guillaume Canet et Audrey Tautou ont été moteurs de quelque chose, mm-hmm. parce qu'ils ont, ou Romain Duris, ils étaient identifiables très vite, très tôt, très jeunes. Donc tous les gens qui sont 5-10 ans plus jeunes ont voulu ça. D'accord. Sauf que le créneau était pris, ils étaient là eux. Et donc, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu es arrivé dans la place et qu'on t'attend pas parce que Canet est déjà là.
Syndrome nouvelle star, un petit peu quoi.
Avant l'heure. Avant la nouvelle star, c'était l'idée. Bah oui, mais c'est. Je le comprends aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui te font te dire ça peut être possible pour moi aussi. En fait. Et en fait, quand toi tu comprends que ça va pas forcément se passer comme ça pour toi, c'est la question, c'est est-ce que tu vas rester ou pas.
Et c'est pas forcément ce que tu recherches toi, parce qu'à contrario, regarde, t'as Julie Ferrier qui a fait énormément en termes de formation, en termes d'investissement. Elle a été jusqu'à Canal+ à faire des moments où elle se rendait vraiment ridicule. Son spectacle, c'était, enfin moi, je suis fan de son spectacle. C'est vraiment attends, la nana elle a complètement intégré ce que c'était que son corps donné aux autres. Elle a pas forcément une célébrité, enfin elle est pas plus célèbre que ça, mais putain c'est une super comédienne et une super actrice et voilà beaucoup, donc son et est-ce qu'on en est plus malheureux, je suis pas sûre, parce que son but c'est jouer en fait.
Après, mais après il y en a qui recherchent vraiment la célébrité et qui une
fois. Oui, mais c'est ce que je disais,
c'est compliqué pour eux quoi, parce qu'ils font je pense qu'ils font ce métier-là pour des mauvaises raisons.
Mais tu sais,
voilà, c'est ce que.
Mais tu sais, très honnêtement, nous qui ne sommes pas des acteurs célèbres, on a les mêmes blues. Parce que le propre d'un acteur, après la célébrité, si t'as été célèbre et d'un coup on t'oublie, ça doit être violent. C'est pour ça que moi perso la célébrité, c'est pas mon truc quoi.
Si elle arrive pas tout de suite, c'est pas grave.
Non, parce que je pense que ça doit être très violent. Pas. Parce que oui, c'est ça, parce que il y a plein d'acteurs qui sont dans des enfin le vrai propre c'est d'un acteur, c'est d'être désiré. À partir du moment où on ne pense pas à toi, où on t'envisage pas, où tu passes plus d'essais, où on t'appelle pas pour une pièce, t'as un moral de merde. Et ça, nous, de là où on en est, c'est quelque chose qu'on vit déjà. Tu sais, le passage du plein au vide.
Ah oui, mais
quoi.
J'imagine que ça
parce
doit
que tant
être...
que t'es dans l'action, t'as eu réussi un casting, tu tournes, et puis après on a une pièce, on part en tournée, tout ça. C'est super, t'es en action. Le vide derrière, quand ça s'arrête, et c'est normal.
Eh oui.
Tu le gères comment Et là, heureusement qu'on est une équipe et qu'on est trois et qu'on s'appuie. Parce que là, il y en a toujours un qui a cafard, quoi.
Et puis t'as les. Les actes manqués, un petit peu.
Je te
regarde, Greg.
C'est quoi un
acteur? Je crois que j'ai commencé à l'ébauche tout à l'heure.
Les gens qui se retrouvent pris pour un casting, qui sont prêts pour aller à un endroit, et puis qui se retrouvent. Non, mais c'est des choses.
C'est une erreur logistique.
Non, mais c'est un truc, toi, par exemple, tu avais pris Greg dans un casting.
Dans une grosse pub.
Dans une grosse pub pour Angina, pour ne pas les citer. Et qu'à quelques semaines
Pepsi
de
Pepsi Sprite, c'est
de,
bon.
À quelques semaines de partir aux États-Unis, tu te rends compte que ton passeport.
Une semaine.
Tu te rends compte que ton passeport n'est plus valide.
Oui, merde.
Et qu'en gros, tu passes à côté de.
Parce que le tournage se passait où?
C'était quel cachet pour
c'était
combien
Los
de jours
Angeles,
en Floride?
Et c'était un cachet, je crois, de 15 000 € pour 4 jours en Floride.
Oh, putain, la gueule.
Mais voilà.
Enfin, il faut payer le billet aller-retour.
Ouais, mais ça reste,
non,
ça reste.
Non. C'était juste la paye, 15 000.
Hors des fraiements, quoi.
Ah,
c'est ça.
Ah,
tout
ah,
est
prêt. Hein.
Non mais ça reste des choses. Non mais.
C'est des cas. Tu sais, hein, quand t'as plus de PQ, t'as plus de PQ. Hein. T'as beau t'appeler Nicole Kidman, t'as plus de PQ.
Alors ça, j'attendais pas mieux.
Surtout que Nicole Kidman a les lèvres en forme de cul maintenant.
Non mais c'est vrai, tu vois.
Non, mais c'est ça.
Donc,
non,
pour après, la petite anecdote, après, Greg, il n'a pas fallu lui parler pendant 2 mois parce qu'il l'avait un petit peu amer.
C'est
normal.
Ça a été un peu
gavant. Sympa, il remet le couteau dans la plaie.
Ouais, mais c'est
non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est juste pour montrer que le côté. Les gens. Enfin. Quand t'écoutes les intermittents du spectacle, c'est des feignants. C'est des gens qui
abusent du système, etc.
Ils n'ont même pas le temps d'aller changer leur passeport à la mairie, quoi.
Non, mais voilà. Il y a un moment, non, mais c'est que c'est des choses auxquelles mais tout le monde ne penserait pas.
Est-ce que tu crois que
les gens ils savent pas comment ça fonctionne?
Mais c'est ça, moi je pense qu'il y a une totale ignorance. C'est vraiment un des gros problèmes. Le MEDEF
le sait et on influence l'opinion sur cette ignorance.
Justement, les gens font l'amalgame avec le côté célébrité, tout doit être facile. On leur dit. Mais si,
non,
mais.
Non, je pense que
le lambda aussi. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Ludo. Non, c'est comme nous, les fonctionnaires, on a 2 mois de vacances.
Toi, t'es une grosse feignasse aussi. C'est autre chose. Toi, c'est autre chose.
2 mois l'été.
Juste pour remettre l'intermittence au bon endroit, c'est qu'à la base, l'intermittence est une caisse de cotisation interne.
Parle bien dans ton micro parce que je pense que c'est un sujet encore plus intéressant que le reste. Et parle bien dans ton micro.
L'intermittence, à la base, c'est une caisse de cotisation interne au spectacle. C'est-à-dire que chaque acteur ou technicien, en tout cas, voilà, artiste, cotisait et mettait dans cette caisse et c'était reversé pour aux acteurs ou techniciens qui ne travaillaient pas. L'État a récupéré cette chose-là et l'a mis dans le régime général, enfin, dans le régime chômage. Et du coup, on a maintenant associé déjà à des chômeurs normaux.
Parle bien dans ton micro, s'il te plaît.
Putain, je suis chiant, mais faut qu'on t'écoute bien, là, c'est important.
Du coup, maintenant, on est associé aux chômeurs normaux. Et, comment dire, forcément, quand on compare un chômeur intermittent, enfin, un intermittent et un chômeur, le chômeur qui voit les intermittents en train de se dire que si on ne travaille pas, on a des cotisations, enfin on a une indemnisation. Quand on travaille, l'indemnisation s'arrête, mais c'est décalé, blablabla. Et qu'en parallèle, il y a des acteurs qui se touchent des 15 000 euros par semaine, des machins, des trucs, des bidules. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces salaires-là, il faut les lisser sur l'année.
Ouais.
C'est, oui, peut-être que quand tu pars en tournage, tu as 6 jours de tournage, tu es peut-être à 800 000 euros par jour.
800 ou 1000, hein, pas 800.
800 ou 1000.
Ça paye vachement bien. Hein.
Mais c'est.
Mais tu sais pas
il
ce que t'as derrière.
Il faut lisser sur l'année, quoi. C'est 6 jours sur 365.
Oui, demain, tu sais pas ce qu'il
va voilà. Dire. Non. Et il faut savoir aussi qu'on cotise comme des malades. C'est notre compagnie est taxée à 56%. Sur les salaires pour les artistes et 64% sur les techniciens.
Et justement, alors ce qui explique là, dans votre compagnie, vous expliquiez que vous étiez 3.
Ouais.
Ça veut dire que faire venir quelqu'un en plus pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité.
Ils
sont obligés.
On le fait.
Bah oui. Non, mais j'essaie de.
Non, mais c'est, tu as raison. C'est-à-dire que les premiers spectacles, tu les fais en interne, comme ça te coûte le moins d'argent possible.
T'essayes de limiter la casse en termes de dépenses, quoi.
Bien sûr. Sauf qu'il y a un moment, si tu veux vraiment vivre, si tu veux vraiment avancer, il faut te jeter. Il faut prendre des risques.
Ben oui.
C'est comme une étape fondamentale pour une compagnie de théâtre, c'est le Festival d'Avignon.
Eh oui.
C'est minimum 10 000 euros à investir.
À condition.
10 000 euros, quoi. 10
000 euros, à condition qu'on ne fasse pas crève. Parce qu'il y a eu crève.
Il faut louer, louer la salle, il faut louer le logement, il faut bouffer, il faut.
Ouais, tu loues la salle.
Tiens, j'ai une question. Tiens, un truc tout bête. Je, à force d'écouter des podcasts, je connais une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Tabou. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Je crois que c'est leur nom. Je me trompe peut-être, mais il y a le tabou.
Le tabou.
C'est le tabou, mais bon, bref. Et pour justement aller à Avignon en 2015, ils ont mis en place un crowdfunding.
Ouais.
Parce
qu'ils
sont incapables de financer le fait d'aller à Avignon l'année prochaine.
Ouais, mais
alors que c'est... Avignon, c'est quand même pas les Oscars. C'est un truc qui coûte,
c'est plus
coûte des sous.
Que les Oscars,
d'ailleurs, et justement, c'est pour ça que je reviens. C'est que vous avez été. À Avignon cette année.
Vous avez fait, je dis pas de bêtises,
ouais,
2014.
En 2012 pour le vol et en 2014 pour l'inaccessible. Voilà. Mais, tu dis que c'est pas les Oscars, moi je suis pas d'accord.
Ah oui, non, mais c'est...
Parce que nous,
c'est la référence ultime du festival.
Non, mais parce que
hein.
Si tu veux, c'est une vitrine. C'est une vitrine.
Allô.
C'est-à-dire que quand tu joues 23 fois d'affilée, ce qui est déjà beaucoup théâtralement en France, jouer 23 fois d'affilée, c'est 23 opportunités de faire venir les programmateurs du monde entier, surtout de France, mais de partout. Et donc de te faire acheter. Et quand tu as investi 10 000 euros et de savoir que tu vas vendre 5 fois ton spectacle, tu sais que du coup tu vas récupérer ta mise.
Donc,
voir
ça s'explique complètement, quoi.
Bah, bien sûr.
Qu'une compagnie veuille.
ça se justifie
participer
bien sûr.
Au festival d'Avignon.
Bien sûr.
Après, ça n'explique pas les coûts. Parce oui, que les salles de spectacle, la location est extrêmement chère à Avignon.
Il y a de plus en plus.
Et quelquefois, c'est pour louer un garage aménagé dans des conditions de sécurité monstrueuses.
Et à l'extérieur, ça se fait pas ?
Si, il y en a, mais tous les spectacles se jouent pas à l'extérieur. Bah, ouais. Ça dépend de ta mise en scène et puis du enfin, bref.
Et de votre nom aussi, parce que c'est plus vous êtes.
Non. C'est juste qu'ils te disent voilà, j'ai le créneau de midi qui est à 9000 euros. J'ai le créneau de 14 heures qui est à 16 000. J'ai le créneau de machin.
En fait, la ville profite tout simplement de la vitrine.
C'est privé.
C'est
privé.
C'est qui a un théâtre ou qui a une salle à mettre
en location, c'est tout. C'est privé, c'est pas.
Mais c'est là que c'est dingue.
Arnaud,
ah ben non, c'est pas
Arnaud
normal.
A une question. Et ça n'est qu'une question. Alors, justement, pour le privé qui va louer sa salle ou assimiler, ça n'est qu'une question d'argent pour lui. Est-ce qu'à un moment, il arbitre entre.
Ouais. T'as des gens comme La Luna, par exemple, mais t'as d'autres lieux qui ont une ligne artistique, ouais. Qui défendent des choses. Voilà.
Bah quand même, ça rassure.
Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Et puis après, il y en a où.
Il y en a où c'est clairement le commerce.
Il suffit de regarder le panneau des affiches et tu te dis qu'effectivement, je pense qu'il ne sait même pas lui-même ce qu'il a programmé. Quoi.
Ouais.
Mais c'est drôle aussi, c'est-à-dire que si la troupe qui investit 10 000 euros et qui, en dépensant un tel montant, va dans un endroit merdique, c'est sa faute.
Ouais.
Oui. Moi, si je dépense 10 000 euros, je veux savoir où je vais et avec qui. Quoi.
Bah, bien sûr.
Et, comment vous tirez votre épingle du jeu avec l'ensemble des compagnies, des pièces qui sont jouées à ce moment-là ? Tu investis 10 000 euros et derrière, il faut rentabiliser.
Tu as 15 000 flyers avec toi, 250 affiches x 3 parce que les orages à Avignon l'été, ça te baille tout sur le passage, il faut réafficher.
Attirer les gens, voilà, c'est ça. Comment
tu fly toute la journée. En gros, pour vous la faire courte, cette année, nous, on avait loué une maison et on s'était réparti avec la troupe. On a acheté une petite piscine, vous savez, les piscines d'été pour enfants.
Ouais.
Et on s'est dit, ça, c'est notre sas, et c'est vu la chaleur, etc. Et en gros, on jouait le matin à 11h. Donc, il y avait deux d'entre nous qui partaient à 9h, qui flyaient le matin. Trois d'entre nous qui flyaient dans les rues avant de jouer. Les autres arrivaient juste pour jouer. On jouait. Ceux qui avaient flyé avant rentraient chez eux. Ceux qui avaient, commencé leur journée par la représentation enchaînaient sur du flyage. Et on avait la petite piscine histoire de pouvoir se
réchauffer.
Et après, on repartait pour un tour de flyage.
Sinon, il y a une autre possibilité en 2015.
Jouer à
les flyers, non, l'entrepode couvre le festival d'Avignon.
Ben bien sûr.
voilà.
Et nous, on fait les flyers pour la compagnie de Bertrand et pendant qu'ils puissent, pour leur permettre de respirer, mais on aura loué une villa avec piscine.
et les flyers, c'est efficace, c'est-à-dire que ça attire vraiment du monde.
Non,
voilà. Ouais, en même temps, c'est pas efficace.
C'est le contact.
La qualité de ton affiche, c'est la clé.
C'est la communication.
Oui, puis c'est le contact avec la personne. Le flyer, c'est juste le prétexte pour approcher la personne.
Exploser
rapidement. Mais en soi, c'est vraiment le contact, la discussion et la rencontre avec la personne qui fera si elle vient ou pas. Des flyers, ils en ont 200 par jour.
Ben oui, c'est ça. Ça doit être un truc de taré, quoi. Oui, vous faites des jeux de main, tous les deux, Ludo et Arnaud.
Non, je pose avec Arnaud une question passionnante à poser.
Salut. Non, pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de qualité de l'affiche. Est-ce que vous travaillez, par exemple, pour votre compagnie, avec, je dirais, un photographe ou quelqu'un qui va vous...
Des infographistes. Elles sont starlettes.
En fait, ça dépend du spectacle.
Vous devriez peut-être. Moi, j'en connais une. Je connais une infographiste.
Leurs affiches sont magnifiques.
Non, en fait, on fabrique pas vraiment nos affiches en amont. C'est-à-dire, c'est les répétitions qui nous servent. C'est-à-dire, la plupart du temps... On prend des photos des répétitions et t'en as toujours une qui sort du lot. Et après, avec un bon photoshopage, tu peux en faire un truc. Mais, l'idée, c'est d'aller choper le truc un peu vivant et
quelque chose qui échappe à l'acteur. L'essence du spectacle.
Ouais, voilà. Et c'est vrai que plus tu vas faire quelque chose... Souvent, moi, enfin perso, je trouve que les affiches de théâtre sont tellement moches tout le temps.
Les vôtres sont toujours magnifiques.
Eh ben, j'adore mes affiches.
Merci.
Moi, je suis absolument pas.
Ouais, j'adore. Avec la robe, avec les fleurs rouges.
Je suis pas du tout objectif. Non plus,
alors, par contre, la transition va être difficile, mais c'est une question que je me pose. Vous avez parlé tout à l'heure de vos agents respectifs. Comment on fait pour trouver son agent ?
sur Paris.
Voir Internet.
Non, mais c'est vraiment comme ça, un coup de poker, c'est, ou ouais. C'est le non, on non. Dit, ou c'est, ou c'est parce qu'il a bonne réputation. Parce que autant on peut connaître la réputation des metteurs en scène, mais sur les agents artistiques, comment on peut mm-hmm. trouver l'argent artistique qui va faire qu'il peut nous trouver des rôles
C'est un coup de poker, hein. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis ton agent, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toi qui vas choisir ceux que tu contacteras. Mm-hmm. Mais c'est eux qui choisiront s'ils te prennent ou pas.
D'accord.
Ah oui, tu peux avoir un seul agent.
C'est qu'un seul agent. Ouais.
Et
ouais.
Vos agents, est-ce qu'ils ont des acteurs qui sont connus ou pas? Ou est-ce que c'est ça qui va faire que vous allez les choisir plus que d'autres?
Parce c'est
que
un si piège vous... en fait. C'est un
ouais,
piège
mais c'est ce... voilà, c'est ce que je voulais savoir.
C'est.
Tu m'as coupé.
Bah, en fait, raconte-toi sans nommer, mais tu peux raconter ton expérience de ça.
Bézu, la gaz.
Non, j'ai été dans une des plus grosses agences de comédiens pendant deux ans. Et en fait, c'est une cage. T'es pas un acteur connu, c'est hyper flatteur d'y être, mais en fait, on te fait pas travailler parce qu'ils ont des têtes d'affiche qui leur amènent l'argent mm-hmm. chaque mois et des grosses sommes. Donc en fait...
Puis c'est pas qu'une question d'argent, il y a tout un travail sur la com, oui. Les journalistes, les promos, les sorties, les tournages, les machins, qui fait que les célébrités sont...
Mais puis quand je dis une question d'argent, c'est qu'un agent qui n'a pas de tête d'affiche ou de star ou quoi que ce soit doit se démener le cul terriblement pour choper les contrats à ses acteurs pour lui pouvoir bouffer. Ah oui. Moi, mon agent, il n'avait pas besoin de ça. Il avait 5 ou 6 têtes d'affiche. C'est bon, quoi. J'ai dû passer en 2 ans, j'ai dû passer 3 castings. Oh. Ouais. Donc, à l'inverse, là, j'ai une très, très bonne agent qui est vraiment, vraiment réputé. Et en ce moment, je l'ai eu au téléphone avant-hier, il n'y a rien. En ce moment, tous les agents sont un peu au stand-by.
Ouais. Et puis ils attendent
parce
que ça
qu'il
n'y
a
libère.
Plus rien. Quoi. Mmh. Là, en ce moment, en fait, les contrats, ouais, c'est...
Il n'y a plus de hiérarchie dans la façon dont le métier se passe.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que... Avant, c'était quelques agents qui monopolisaient les contrats. Et là, moi, par exemple, mon agent, qui est un petit agent, au sens noble du terme, mais un peu plus artisanal, elle s'est retrouvée avec un acteur qui était en finaliste sur le nouveau James Bond.
Ah oui. Le
décalage est énorme entre qui tu es avec ton... C'est un peu comme un petit artisan où la grosse distribution arriverait en faisant une commande d'un coup, tu vois. Ouais. Et ça, ce serait pas arrivé avant. Il y a quelque chose qui est en train de changer, ça, qui est en train de bouger.
Comment vous l'expliquez? Enfin, est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Non, on peut pas l'expliquer. Puis on le subit plus qu'autre chose parce qu'on passe 10 fois moins de casting qu'avant. Donc, du coup, quand on passe un, t'es vachement moins détendu parce que putain, t'as envie de l'avoir. Mais. Quel jeu.
Il paraît que le gars avait été repéré dans une pub Orangina.
Est-ce que vous payez vos agents ou alors ils prennent une commission sur les contrats
C'est une commission qui est en plus. Ouais.
Ne jamais payer un casting, ne jamais payer un agent.
Ouais. Parce que Greg disait qu'il est resté 3 ans avec son agent, qu'il a fait que 3
c'est
castings.
C'est des contrats moraux en fait.
Tu peux pas partir
Si tu peux partir quand
contrat,
tu veux, mais
moraux, comme tu dis,
Tu peux partir, mais ce qu'il y a, c'est que un acteur sans agent.
Pour un autre.
Mais c'est hyper compliqué
si
d'en trouver un autre.
Oui, mais
tu te fais une mauvaise réputation.
Tu peux très vite te faire une mauvaise réputation dans le métier sans être une célébrité pour d'autres raisons. Mais pas pour quitter un agent. Mais nous, on l'a fait de quitter un agent. La seule chose que tu peux pas faire au niveau juridique et moral, c'est ton agent te fait passer un casting, tu l'obtiens, et à ce moment-là, tu dis génial, j'ai en profité pour changer d'agent.
Ah,
on a pas
ah,
oui. Parce que c'est d'accord. L'autre qui s'est
logique.
Démerdé. Ouais. C'est logique. Ouais, mais ça se fait souvent.
Ah oui.
Je te dégote un casting, toi tu l'as et tu vas en profiter pour appâter un nouvel agent en disant tiens, je te ramène un contrat. Ça se fait souvent. L'acteur perd toujours. Au niveau juridique, s'il joue à ce jeu-là, il perdra toujours, et c'est normal. Mais non, tu le payes pas, et c'est ça qui crée un rapport beaucoup plus sain, d'ailleurs.
Mm-hmm. Dites-vous une question. Ouais, truc très con.
Alors,
non, tu te fais du mal. Là.
C'est souvent le cas. On imagine. Alors là, sur les sorties ciné qui se sont faites, vous auriez rêvé jouer dans quel film ?
Tous les films de Xavier Dolan, direct.
D'accord.
Et toi, Greg ?
Le prochain Jurassic Park.
Oh yeah.
Ah ouais, merde.
Juste pour le trip.
Et au théâtre, le metteur en scène que vous adoriez avoir pour vous mettre en scène.
Stuart Side.
Ah ouais.
Ah ouais.
Non,
c'est
Joël Pomera.
Qui sait quoi.
Ouais, Joël Pomera ou
Olivier Pi. Oui, Pi.
Non, moi non. Moi Wad. Moi, je dis moi.
Ah ouais, merde.
Ah ouais, mais là, je connais pas.
Ah, c'est dommage.
Alors, voilà. Mais non, mais j'ai fait.
Et Gérard Miroir.
Hein ?
Non, mais j'ai fait. Alors, vous avez dit. J'ai fait exprès.
Oh, waouh.
Ouais.
Oh, wow. C'est machiavélique.
Mais non. Mais je suis sûre que s'il vous donne une pièce de théâtre qui a été mise en scène, ça va vous parler. Et pourquoi ? Si vous pouviez justifier.
Ouais, alors là, on rentre plus dans de l'artistique que plus que sur le fonctionnement du métier, mais. Bonne ces question. Metteurs en scène qu'on a cités, là, comme on se connaît quand même plutôt très bien, ils ressemblent à la théâtralité qui est la nôtre. C'est-à-dire que Pomera, par exemple, il fait Joël Pomera, il fait toujours un vrai travail, quelle que soit l'histoire. Il est auteur de ses propres pièces, et quelle que soit l'histoire de ses pièces, le travail sur la lumière est vraiment extrêmement précis. Pomera, il y a un travail sur la lumière. Ouajdi Mouawad, il y a une sensibilité qui est en lien avec... On a pas mal parlé de notre pièce Le Vol, qui est une pièce qui prend ses origines sur la dictature en Argentine. Et Ouajdi Mouawad, c'est un exilé du Liban qui ne cesse de raconter encore et encore de façon différente c'est quoi l'exil, c'est quoi être déraciné, en fait. Et c'est quoi les conséquences de tout ça. Il le fait à travers des fictions. Et sa sensibilité est exactement... la même que la nôtre, quoi. Il a été adapté au cinéma, d'ailleurs. Sa grande pièce, son grand succès, c'était Incendie.
Ah oui. Dire, ça ressemble à Incendie, magnifique film.
Ben,
il faut que tout le monde le voit, ce film.
Et ben, il faut surtout voir la pièce.
Ouais. Bah, tu vois, je ne savais pas qu'il existait une pièce.
Ah, bah, en fait, c'est intéressant, je ne savais pas non plus.
C'est quatre.
Ce film est splendide.
Incendie, c'est avec ciel, littoral et forêt. Et c'est quatre pièces qui font un. C'est pas une trilogie plus un, comment ça s'appelle ?
Triptyque ?
Non, quatre.
Quadrilogie,
merci, j'avais un bug là, il est tard. Qui sont quatre histoires sur les conséquences et toute la tragédie possible, et à chaque fois dans des contextes très différents. Et nous, ça nous parle, quoi.
Ah, mais non, mais attends, en plus, Enfin, je sais. Enfin, vous l'avez vu, Incendie, tous autour de cette table.
Oui. Mmh. Ah, oui.
Non.
Non. Ah, ouais. Ça a emmerdé Nico.
Ah non, non,
pas ah bon
tout, non. Ah, c'est...
non.
Ah, pour moi,
prenant.
C'est. Il y a rien de plus. Enfin, il y a rien de plus sincère. Enfin, la recherche de l'être humain et de ce que c'est que l'âme humaine, en fait. Ça, ça va vraiment au plus profond de tes tripes et jusqu'où. Enfin, ça fait poser plein de questions.
C'est un super film.
Franchement, ouais, c'est magnifique.
Temps,
c'est magnifique.
C'est de la tragédie classique.
Oui,
oui.
Oui, oui, non, mais tout à fait.
C'est purement de la
mais je trouve que, tu sais, au milieu. Tu sais, alors, moi, je suis fan de super-héros, machin, tout ouais, tu veux bien. Aussi, ouais. Mais au milieu de tout ça, quand tu arrives à voir ce film-là, ça te permet de redescendre et puis. Pas faire une sorte d'introspection parce que tu te questionnes, quoi. Et ça fait du bien. Voilà.
Et après, tu repars dans ta Kia
Volkswagen. Et après, voilà.
On a évoqué un petit peu le. Votre grand écart, quand même, entre.
Ils font de la danse classique aussi.
Ils font de la danse. Ils sont super souples, hein, vous savez.
Ouais.
Jean-Claude Van Damme. Non, mais entre Plus belle la vie, section de recherche, etc. Et votre théâtre qui va être un peu plus, entre guillemets, exigeant, élitiste, etc. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous permet, est-ce que c'est des finances qui vous permettent de vivre de votre passion, ou est-ce que c'est aussi un moyen de vous faire connaître, après, derrière, d'aller vers d'autres rôles dans le même style, etc. Enfin, c'est...
Ou de bâtir des projets plus ambitieux encore, tu veux dire ?
Pas forcément plus ambitieux, parce qu'ambitieux, il y a un côté un peu...
Ambitieux, j'entendais pas ça ambitieux, mais
parce que
c'est projets... trop long la question.
Je sais pas pour toi, Greg, tu donneras ton avis, mais c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous un côté de pop-corn qui t'empêche pas de, un peu ce que tu dis, on peut aimer les super-héros et aimer Incendie.
C'est ça.
Et donc il y a tout ça qui se joue. En même temps, c'est pas parce que la télé est mieux payée, on est mieux payé à la télé qu'au théâtre que je ne vais avoir un rapport. À... Non, je dis pas ça par rapport à ça. Mais dans, c'est pas le, l'argent que je gagne à la télé ne justifie pas que j'aille à la télé. C'est-à-dire, j'y vais aussi par goût. Être un acteur qui est sur un plateau de tournage, c'est kiffant, quoi. Tu vois, tu fais ton métier. Donc, j'ai pas un rapport à. Toi, je sais pas, mais moi, j'ai pas un rapport
à. T'as pas une hiérarchie sur ce qu'on peut te proposer.
C'est-à-dire si. Que. C'est-à-dire si. Que. Si, parce qu'il y a des choses que j'ai refusées, alors que je ne suis personne, a priori. Enfin, il n'y a pas de fausse modestie, c'est juste que je me fais pas d'illusions sur qui je suis dans le métier. Et ben, il y a des choses que je ne ferai pas parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est.
Par exemple.
Bah. J'ai pas envie de les citer
parce que
non mais
ça paye bien, c'est agréable.
C'est agréable. Enfin, au bout d'un moment, c'est fatigant quand même. Oh, c'est fatigant.
Non, ça va.
Non, mais t'as des...
Il y a pas mal de pauses, hein, tu sais.
10 secondes, c'est pas long, hein.
Non, mais t'as des mini-séries, on va dire. T'as des mini-séries, des programmes courts qui se veulent drôle pour prendre la relève de Chouchou et Loulou. Ah, c'est juste que moi, je me suis dit, si dans ma sensibilité ou mon savoir-faire, je vais faire ça, là, ça devient malhonnête. Là, j'y prends aucun plaisir.
Et est-ce que aussi, tu ne crains pas l'étiquetage
pas au niveau où nous
oui,
on
mais
en est.
Regarde, si tu prends des mini-séries, c'est quelque chose de récurrent, un personnage qui va plaire parce que il va y avoir une demande du public de part des, parce que il y a ça aussi maintenant, il y a des réseaux sociaux. Est-ce que t'as pas peur de l'étiquetage parce que faut correspondre à la ménagère ou à la jeune de 30 ans, tu vois ce que je veux dire?
Mais en même temps là-dessus, correspondre à la ménagère et tout ça, c'est déjà le cas partout.
Ouais.
Partout, dans tous les programmes ou quoi que ce soit. On est casté. Celui-là, il faut le raser parce que sinon, il ne va pas plaire à la grand-mère de 50 ans au fin fond de Bourg-en-Bresse.
Ouais, c'est en fait, chaque chaîne a ses critères.
De toute façon, on est toujours catalogué dans un physique.
Mais même quand tu fais de la mise en scène au théâtre, tu le fais, ça. C'est-à-dire du délit de faciès. Et c'est pas. Il ne faut pas le prendre contre soi. C'est-à-dire. Pourquoi je vais choisir telle actrice plutôt que telle actrice? C'est parce que mon imaginaire fait que je la vois comme ça. Et c'est complètement une discrimination, mais qui n'est pas...
Mais c'est logique, tout le monde
logique.
Le fait.
Et puis, si je fais une mise en scène, il faut qu'elle soit...
Mais moi, je la trouve moins barbare qu'au niveau de...
De la télé.
Ben oui, parce que c'est ce que je te disais, il y a des réactions. Pourquoi scène de ménage fait un tabac? C'est parce qu'il y a eu une enflammée sur les réseaux sociaux.
Je
ne
comprenais pas d'ailleurs, mais bon.
Hein, j'y connais rien. Moi, ça fonctionne
sur
moi.
Ça va
être
facile,
moi.
En fait.
Après, ça fonctionne sur c'est moi, mais je le fais pas de façon récurrente. C'est-à-dire que je vais pas me foutre devant ma télé en me disant « Ah, c'est l'heure de scène de ménage. » Voilà. Mais ça m'est pas désagréable. Mais par contre, j'ai vu, comme Chouchou et Loulou, en fait, ils ont fonctionné parce qu'il y a eu...
Ils ont fonctionné parce qu'il y avait des dialogues, il y avait de l'écriture, il y avait du travail derrière.
Il y avait... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que...
Scène de ménage ou Mes meilleurs voisins, franchement, sans déconner, c'est de la merde. Une série, voilà. Je suis désolé, je suis un peu péremptoire, mais c'est de la merde.
Je ne parlerai pas les deux. Pas si catégorique que ça.
C'est une série, après, une série, je veux dire, tu peux avoir les réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Si au départ, il n'y a pas un minimum d'écriture, de travail.
Oui, c'est ça. Non, il faut donner à manger à l'acteur, il te fera de la merde si tu lui donnes.
Bien sûr.
Moi, pour moi, une chose pas possible à la télé, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, alors que je sais pourquoi tu le dis et je le comprends.
Je parle pas de l'acteur, hein. Je parle du,
j'entends.
Du sujet.
C'est que pour moi, la chose à la télé qui devrait même. Enfin, c'est tous les scripts réalité qui existent. Mmh. Je parle pas de télé-réalité, ça, c'est pas des acteurs. Mmh. Les scripts réalité, comment ça s'appelle, tous ces trucs, le jour où tout a basculé, tous ces trucs,
oui,
toutes les chaînes en
monde. J'ai fait la connaissance de ça il y a pas longtemps, c'est
oui, c'est horrible,
c'est pathétique,
c'est mal joué,
ne peut pas s'en sortir.
Ah, les docu-fictions, c'est pas
des docu-fictions,
d'accord,
c'est de la fiction totale,
mal joué, c'est pas bien joué, mais alors pas bien joué,
mais ça sert à rien,
je sais pas, mais non, mais parce que
c'est terrible,
il y a un public,
le contexte, la façon,
aujourd'hui
les gens qui s'ennuient,
tu mets Marion Cotillard dedans,
Catherine va découvrir une chose qui va bouleverser sa vie.
Que tu peux, non, tu peux pas t'en sortir.
Mais les gens regardent juste parce qu'ils s'ennuient.
Non, il y a un vrai public.
Mais pourquoi ils regardent?
T'as des gens qui le pensent vraiment.
Parce que...
Vas-y, mais alors là, tu voulais dire. Par contre, pour ce genre d'émission, il y a un vivier d'acteurs qui...
pas con que ça à faire, mais qui. Non, c'est quoi, tu vas que pour le fric là-dedans? Parce que.
Je sais pas.
Oui, mais c'est joué lamentablement. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment.
Bien sûr.
Il y a ceux qui veulent tourner et ceux qui veulent boucler leur intermittence.
Et je sais pas s'ils peuvent jouer mieux que ça dans le contexte qui leur
est. Non, c'est impossible. C'est impossible.
Mais moi, je j'ai pas un avis négatif sur ça, parce que quand moi j'ai refusé un truc dans un des programmes courts, c'était parce que j'avais le luxe de ma petite place, j'avais le luxe de pouvoir dire non aussi, parce que au théâtre j'avais suffisamment joué pour pouvoir me dire que mes 507 heures étaient assurées. Bien sûr, mais ma compagnie, elle, c'est pour ça que tout ce que tu disais dans ta question, le grand écart, et c'est tout ça à la fois, c'est-à-dire et là, l'expérience faisant, on est en train. Ce sera l'objet d'une autre rencontre, parce que là, par superstition, on ne veut pas trop en parler, mais on est en train, à force d'expérience, de faire en sorte que l'écart entre notre monde télé parisien et notre monde théâtre provincial, l'écart se diminue, s'efface, pardon, ouais, et se rapproche pour pouvoir créer des ponts entre c'est quoi être dans une exigence d'un côté et dans un plaisir de l'autre. Mmh. Et puis que les acteurs que tu kiffes, tu les ramènes sur tes projets.
Ah, mais bien sûr. Oui.
Et c'est ce qu'on arrive à tout doucement à faire là, petit à petit, mais pour que. Mais ça met du temps.
S'il y a des gens de Paris ou du Nord-Pas-de-Calais qui nous écoutent, il faut aller voir les pièces, parce que, honnêtement, nous on est allés voir certaines pièces qui nous ont pas forcément plu. Par contre, on a vu d'autres pièces qui sont extraordinaires. Enfin, franchement, tu te. Te retrouve, mais à être scotché sur ton canapé, c'était passé à la télé, on les avait pas vus malheureusement, on les avait pas vus en live, le vol notamment, mais où on se dit, mais voilà, le théâtre vivant, et là tu te dis, tu vois ça en vrai, ça te décuple ton impression au quotidien.
Oui, parce que je me dis, peut-être que j'ai chialé parce que c'était Greg, mais d'un autre côté, je me dis, et si je l'avais vu en vrai ?
Je pense pas.
Franchement, ça m'aurait encore plus arraché les tripes, en fait.
Les étiquettes, elles sont pas là où on pense, parce que tu t'es toi-même mis une étiquette sur tes goûts, alors que.
Voilà. Mais.
C'est vrai. Enfin, mais très bien.
On fait tout ça.
Peut-être, pour conclure. Pardon, vas-y, Ludo.
De là, je me dis juste par rapport à Avignon, la difficulté, j'imagine, ou la frustration qu'on peut avoir quand on se dit, on a vraiment un truc fort. Et comment arriver à aller tirer des gens qui a priori sont pas, ce que disait Nico, pas forcément spontanément à aller voir ce spectacle là et arriver à se dire on va réussir à convaincre les gens de venir et d'être embarqués.
C'est une énorme frustration à Avignon, en tout cas, parce que quand tu joues au théâtre, quand t'es programmé ou acheté, etc., tu sais que les gens ont choisi de venir te voir à l'avance avec programme, etc. À Avignon, c'est des coups de cœur spontanés. Ah bah oui, tiens, on avait prévu toi, mais on va aller voir toi, et voilà. Et tu sais que. En fait, c'est pour ça que c'est un délit de sale gueule que tu fais dans la rue en disant oh, lui, il a une tête à aimer mon spectacle. Et une fois sur deux, tu te trompes d'ailleurs. Tu comprends, au gré des jours, tu comprends un peu qui est ton profil de public.
Nous, c'était les ménagères.
Nous, c'était les femmes.
Xavier Cerné, en fait, c'était, ça.
Non, sur l'inaccessible. On allait voir les femmes.
Sur l'inaccessible, c'était les femmes.
C'est incroyable. Pourtant, j'ai quand même des sacrés sales gueules.
Je ne comprends pas.
Sur l'inaccessible, qui est metteur en scène?
Moi.
Qui est encore. Acteur? Est-ce que toi, tu es metteur en scène?
Je joue aussi, mais...
Bertrand et Grégory est acteur.
En fait, c'est une pièce... Parce qu'on parle du vol beaucoup, mais le vol, on le joue en juillet. Là, l'inaccessible, c'est dans 3 semaines.
Le 18 mars.
18 mars et ensuite 12 mai.
Ouais, au 20e. Et là, c'est un mélange entre danse, langue des signes, art plastique et théâtre.
Et durée de vie de pièce comme ça, pour vous, c'est quoi?
Ça dépend. Le vol, ça fait 4 ans.
L'inaccessible, un an et demi.
Ouais, ça dépend. Et là, la pièce qu'on va créer dans un an, Nos, on sait d'avance qu'elle va durer 3 ans.
Okay.
Au minimum.
Parce qu'on a déjà suffisamment de dates pour savoir qu'elle va durer 3 ans.
Pas mal.
Mais voilà.
Et par exemple, ce projet-là, qu'est-ce qui fait que... Voilà, celui-ci, pourquoi vous en parlez, Nos?
Nos?
Comment on sait que ça va durer autant?
Non, pourquoi vous en emparez?
Pourquoi celui-là?
Ça fait longtemps qu'on avait envie de le jouer.
Ça fait plusieurs drames qu'on fait au théâtre. Et on avait envie d'une comédie. Sauf que des bonnes comédies, il y en a peu. C'est vachement plus facile de pleurer que de rire. Et on avait envie, nous, d'y aller. Et en fait, le rythme de cette pièce, il est complètement dingue. Et on sait que ça va nous faire un bon décrassage, un truc bien... Et puis c'est nouveau pour nous.
C'est un peu en danger aussi par rapport à ce qu'on faisait avant.
Ouais, complètement. Et la, c'est une mise en danger aussi parce qu'on va chercher un metteur en scène complètement extérieur qui n'est pas dans la compagnie.
Donc c'est Pierre Note.
Pierre Note, qui est un artiste associé au Rond-Point, qui écrit et qui met en scène aussi de son côté.
Et la pièce est de Jean-Luc Lagarce.
Lagarce.
C'est ça.
Et ce sera l'année Lagarce l'année prochaine.
D'accord.
Donc c'est un auteur au programme et au répertoire.
Et donc,
et ça va être super.
Oui, Starlet.
Peut-être pour conclure, est-ce que vous pouvez dire qu'au fur et à mesure des années, vous passez de plus en plus de plaisir à faire vos 507 heures ou pas ?
C'est une jolie question. ça dépend les années, en fait.
C'est pas crescendo.
Si, non. Si.
Ah, c'est
ça dépend. Chacun son point. Un désaccord. Voilà, chacun le vôtre, alors. Allez-y, parce que c'est intéressant.
Vas-y, toi.
Non, vas-y.
Bah, c'est de plus en plus dur en soi, alors que... Non, mais... Pour rien au monde, malgré la difficulté, je retournerai pas en arrière. C'est-à-dire, les étapes franchies, elles sont franchies, quoi. Et que je connais suffisamment d'acteurs qui ont le double de mon âge et qui sont aigris et qui ont renoncé et qui sont négatifs pour que leur expérience me prépare. C'est-à-dire, enfin, je veux pas rentrer dans un monologue à nouveau, là, mais... Ça, pourquoi Nos, pourquoi L'Inaccessible, pourquoi Plus belle la vie, ce ne sont que des choix pour, être dans le plaisir. Notre métier, on ne va pas se leurrer, on ne sauve pas des vies, quoi. On fait du jeu. Donc si en plus de ça, on ne prend pas de plaisir, au moment où on le fait, y a un problème. Donc l'idée, c'est d'être
C'est d'ailleurs le seul métier où on dit quand on part travailler, on va jouer.
Vrai. Quand tu es musicien, tu dis la même chose.
Bien sûr.
Ouais.
C'est les métiers de scène. Mais,
ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est des métiers en même temps remplis d'aléatoires.
Je ne connais pas la musique.
Non, je ne connais pas la musique. Nous, on fait jamais de scène, nous.
C'est des métiers qui sont remplis d'aléatoires, de précarité. Quoi qu'on dise, là, on parlait de chiffres tout à l'heure, mais on reste dans une autre précarité. Et je. On a fait le choix d'une liberté, on peut pas le dénigrer. Il y a un rythme de vie qu'on a choisi, ça a une conséquence. Et c'est pour ça que moi, je le vis de mieux en mieux, c'est que...
Dès lors que tu as fait le choix de cette liberté, tu
n'as
pas à renier...
Ça ne veut pas dire que c'est plus facile matériellement
non,
ou financièrement,
bien sûr.
Mais c'est que ça a du sens et que...
Voilà, ça a du sens à ce que tu veux...
J'ai pas de plan B et j'en veux pas, en fait.
Ouais, c'est ça. Et toi, Greg, t'as l'air plus dubitatif.
Voilà, Non, en fait, je le rejoins. C'est de toute façon, c'est pareil. Ce métier, je peux pas faire autrement que de le faire. Mais c'est vrai que il y a des périodes hyper compliquées et quelquefois, il faut faire attention à ce qu'elles ne prennent pas le dessus, quoi. Tout simplement. Oui. C'est que cette précarité, cette galère, n'enlève pas le pourquoi tu fais ce métier, quoi.
Oui. Donc tu observes pas de crescendo naturel, en fait. Il faut toujours aller forcer un petit peu le destin pour voir un crescendo.
Ouais, il faut se battre parce que on n'est pas des fils d'eux, on n'est pas.
Ouais, bien sûr.
On s'est construit, ça fait 12 ans, 13 ans qu'on fait ce métier. On s'est construit au fur et à mesure et on est encore loin du but, quoi. Parce que on aimerait.
Quel est le but d'ailleurs?
Ne plus courir après les 507 heures.
Ouais,
c'est ça. Non, mais voilà. C'est vrai que pour les trois quarts de nous qui sommes autour de la table ou des gens qui nous écoutent, les 507 heures, je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent vraiment le concept.
Ça veut dire,
c'est un truc qui est vraiment. Enfin.
Non, mais 507 heures,
je me trompe peut-être,
mais. C'est-à-dire qu'on travaille. 6 jours par semaine, c'est-à-dire que ça me fait rire aussi.
Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est 507 heures, mais.
4 mois à temps plein, à 35 heures.
507 heures rémunérées.
En 2014.
Enregistrées auprès des services de l'État.
Sinon, en gros, on travaille 80 heures par jour. Par semaine.
Non, mais
quand t'as une compagnie, c'est ça, quoi. T'es constamment dessus.
Pour exemple, en 2012, je faisais donc la fin de la tournée Ruquier. Donc on était sur la pièce de Ruquier, en même temps que j'ai eu un premier rôle dans un Joséphine Ange Gardien, en même temps qu'on avait le vol. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute l'année. Ça ne faisait pas 507 heures.
Ah ouais,
ah ouais.
Donc en fait, heureusement que d'autres spectacles sont arrivés en cours de route pour faire des... Ruquier,
Joséphine Ange Gardien... Et entre nous, tu peux pas zouiller un peu, quoi?
Tu peux quoi?
Zouiller un peu,
enfin, bah tu fais
rajouter deux heures, enfin quoi, comment tu fais?
Non, c'est
des heures.
C'est du travail.
Un cachet, c'est 12 heures. Quand t'as plus de 4 cachets d'affilée, c'est 8 heures.
Ah putain.
Donc tu peux pas faire autrement.
Ouais. Non, mais on y arrive quand même. Mais c'est, on y arrive en. Mais enfin, moi, je m'en plains pas. C'est notre métier.
Vous,
mais...
vous avez des projets de cinéma justement pour essayer de sortir de ces 507 heures.
Ben, on aimerait.
Et la pub est réputée pour rémunérer vachement bien.
Maintenant. Non, maintenant. Les budgets baissent de plus en plus. En fait.
On a des projets. C'est là où on essaie de rapprocher les.
Parle bien dans ton micro.
C'est là où on essaie de rapprocher notre réseau parisien et notre réseau de théâtre, de compagnie plus national. Parce que à partir du moment où tu. Bah, où t'as des noms, tu donnes à ton spectacle, à ton projet, une espérance de vie beaucoup plus forte. Parce que tu attireras. Bah, plus de public, parce que tu attires des acteurs connus. Et notre idée, c'est d'aller dans notre univers, dans les goûts qu'on a, dans les choix des textes, etc., avec des acteurs qu'on aime et qui sont plus... On commence à y arriver, mais on en parlera...
Et quels sont les acteurs que vous aimez?
Plein, plein. Suzanne Clément, déjà.
Emmanuel Béart.
Ah ouais,
Je la kiffe.
Pardon, excuse-moi.
Bouge-moi.
Ouais, mais bon,
ah, c'est un peu.
Ah,
voilà.
Quel dommage!
Non, c'est pas grave, mais c'est pas grave, ça reste à elle.
C'est une superbe actrice, mais qui a eu des mauvais choix de vie.
Mais elle le regrette aussi. Elle le regrette.
Mais surtout des femmes qu'on aime.
Ah, bah allez, vas-y.
Il y a des acteurs qu'on aime bien. Mais
non, mais vas-y, les femmes, continue.
Dans les femmes.
Qu'on fasse nos jalouses.
Kate Winslet, moi je suis.
Ah, mais oui, bravo! Trop bien.
Amoureux.
Moi j'ai une actrice qui a eu une évolution, je trouve. Fantastique.
Mais elle est
fantastique.
Emmanuel DeVos, non?
Si.
Moi je suis fan,
je suis fan de Sophie Marceau.
Alors mec.
Moi j'aime bien, contre toute attente, parce que j'ai mis du temps à bien l'aimer, j'aime bien Guillaume Canet. J'ai mis des années, au début je comprenais pas pourquoi il y avait un tel emballement autour de ce mec. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai vu Ensemble c'est tout et je me suis dit, bah ouais, en fait. Il est tellement tout le monde, il est tellement évident que ouais.
Les jeux d'enfant, t'as pas aimé dans les jeux d'enfant? Cap à cap, ah j'adore ce film.
Ouais, moi aussi.
Je suis fan.
C'est pas mon... Non, c'est pas mon... Marion Cotillard, j'adore aussi.
Oh
bah, depuis qu'elle a un Oscar...
Elle meurt tellement bien dans Batman.
Moi, je l'adore.
Non, mais sans Batman, même le reste.
Je l'adore.
Oh, la môme, elle joue
il suffit
super
que...
bien.
Mais même avant, mais même...
Depuis mais dans Jeux d'enfant, je la trouve bien. Sublime. Dans Jeux d'enfant.
Mais parce qu'en fait, il y a un truc... Tout le monde adore la critiquer. En fait, c'est l'actrice que t'as le droit de pas aimer. Moi, je l'adore, quoi. Je trouve qu'elle est super...
Non, mais après, chacun son goût.
Ouais, bah de toute façon, je suis habitué, j'aime bien Sophie Marceau, donc je suis habitué.
Et toi, Greg?
Un acteur, Anthony Hopkins.
Ouais. Mais français maintenant.
Français maintenant.
Bah oui, pour te mettre en concurrence avec Bertrand.
Dis-moi. Acteur français.
Un acteur qui
Je cherche.
Ouais, sur des
non, en fait, là, tout de suite, acteur français, j'ai rien.
Pierre Ninet, il est génial. Il est génial.
Ouais. C'est le mec qui a le vent.
Celui qui a eu un César pour Yves Saint Laurent.
Ouais,
Entre autres, mais il a pas fait que ça.
Non.
Oh on a fait les garçons, on a fait les filles, et puis sinon vous êtes plutôt la cire, Tintin, dans ce qu'on va y aller. On va faire la suite aussi.
Il est nul.
Ah non, mais franchement.
Ah non, mais moi j'adore.
Moi j'ai beaucoup aimé ce passage.
Ouais, moi c'est pas, j'adore.
Avec,
et j'aurais encore plein de questions à poser.
Un sujet qu'on ne connaissait pas.
Peut-être on le fera en neuf.
Peut-être que vous reviendrez à notre micro.
Avec plaisir.
Qui sait. Ah oui, c'est... pour nous dire pour les noces, l'inaccessible. Nous, et puis nous on ira.
On a un petit peu fait un peu nos novices hein, dans l'histoire.
Bah on n'est pas en
tout cas ça nous a donné. Enfin moi ça m'a donné envie de venir voir vos spectacles.
Allez-y. Allez-y. On a dit qu'on irait tous. Allons-y.
À Boulogne comme à Paris, donc le 18 mars. Greg Bertrand, c'est au
20e théâtre et tout le mois de juillet au Cernaire à Paris.
C'est ça.
Voilà. Et voilà. Donc
merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. Vraiment, on a passé un bon moment.
Et le rideau tombe.
Et donc Didou, il va nous aider à nous endormir moins bête. Ou elle va nous aider à nous endormir tout bêtement.
Je reprendrai quelque chose. Hey, je me suis dit, putain, elle l'a fait pas celle-là. Si, il l'a fait.
Alors, vas-y.
Méchant. Question. Pourquoi parle-t-on du côté cour et du côté jardin au théâtre? Alors, il y a deux questions. Déjà, qu'est-ce que ça signifie côté cour, côté jardin? Et ensuite, l'origine de ces termes.
Côté cour, c'est côté à scène, droite, et côté jardin, c'est à gauche. Côté
ouais,
cour,
mais c'est après, quoi? Ça dépend si tu te positionnes en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur.
Oh, tu me fais chier, toi. C'est bon, ça.
Oh, putain, et là, et là, côté et là, cour. Greg a raison.
Parce que quand t'es face à la scène ou face au public, la droite n'est pas au même endroit.
Exactement.
Alors, ah, putain, je me sens comme Perceval, là, d'un coup.
Non, après, il faut reconnaître que Nico, donc, a raison. C'est un terme... qui désigne la droite ou la gauche. Et Greg, comme il vient de le souligner, ça dépend comment tu te situes par rapport au public, tout à fait.
Côté cour, côté cœur.
Voilà, il y a des moyens mnémotechniques, donc il faut que nos invités vous le signalent. Alors, quels sont vos moyens mnémotechniques?
Maintenant, j'en ai plus. Côté cour, côté cœur, c'est ça.
Bah oui, quand t'es sur scène face public. Le côté court, c'est le côté du cœur.
D'accord. Ouais. D'accord. Eh ben.
Donc, ouais. À gauche, pour les gens normalement ouais, constitués qui n'ont pas subi de grève de tête.
Oui, mais...
Ou à bâbord pour les marins, c'est ça? C'est exactement ça. Mais comment ça se passe dans un théâtre qui est sur un bateau?
C'est exact. Ceci dit, c'est exactement ça. C'est vrai que bâbord, tribord chez les marins, c'est un moyen aussi de parler de la gauche et de la droite. Donc, vous connaissez le moyen mnémotechnique? Dans bâbord, il y a le
pourquoi A. Pourquoi tu regardes Marius
gauche,
il a pas
gauche
compris.
Et dans tribord, il y a le I de droite.
Voilà. Sinon, il y a batterie aussi.
Batterie, dans bâbord, il y a le I de droite.
Tribord. Tu prends le mot batterie et puis tu as bâbord, tribord. Si tu coupes le mot en deux.
Mais ça donne pas la
Il y a tribal aussi.
Oui, c'est vrai.
Non, mais on était sur bâbord, tribord, non
Connaissez-vous l'origine de ces termes?
Non. On est en train de perdre Starlet.
Ça remonte à des temps anciens. Où,
vas-y Christophe, ramène-nous ta science.
Où on jouait le théâtre à l'extérieur.
Toi, t'es en train de lire le conducteur
de
Didouille.
Non, je lis rien du tout, moi.
Non, pas du tout.
J'improvise en direct. Non, j'en sais rien, en fait. Mais je pense que je suis pas loin de la vérité.
Eh bien, écoutez, on est en 1784 à Paris.
Parce qu'il faut être précis, quand même.
À Paris, où des acteurs répètent le mariage de Figaro. Et les acteurs sont des sociétaires de la Comédie française. Et suite à des problèmes de place, l'intendance les a provisoirement installés aux Tuileries, dans la salle des machines. L'endroit fait face à la Seine. La Seine, le fleuve. On est bien d'accord. Donc quand ils regardent le fleuve, ils ont à leur gauche la cour du palais des Tuileries. Et à leur droite, un jardin qui s'étend à l'époque jusqu'à la place de la Concorde. Et ils ont donc à leur gauche le côté cour et à leur droite le côté jardin.
D'accord. Wow.
Voilà.
Merci Tata Didouille.
Merci.
Ces appellations ont servi.
C'était vraiment très intéressant.
La technique aujourd'hui, elle est formidable.
Non, mais du coup, lors des répétitions de spectacle, effectivement, pour aider les comédiens à être dirigés, et c'est devenu une habitude que de leur demander côté jardin, enfin, de se placer côté jardin ou côté... côté
trop barbicina.
Voilà. Et depuis, c'est resté. Donc...
Et autre question, quel est le mot interdit sur scène?
Crapule.
La corde.
Ouais.
Pourquoi?
On dit pas une corde, il y a un mot spécifique, c'est une guinde. C'est comme pour les marins, on utilise le terme de drisse parce que ça porte malheur, car il y avait des pendus.
Tout était manipulé avec les cordes et il n'y avait pas la même technique avant. Et donc il y a eu beaucoup d'accidents.
Oh les cons.
Voilà.
Ça aussi j'ai pas hésité.
Et on a parlé dans le premier ou dans le deuxième entrepode, mais savez-vous pourquoi le vert était un petit peu interdit sur scène?
Parce que c'était un colorant qui était utilisé à l'époque pour les costumes et qui était toxique.
À base de cyanure.
Pourquoi dit-on merde?
C'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de siège et ils venaient tous à cheval. Et plus il y avait de merde sur le parterre, plus il y avait de public.
Exactement.
Oh la merde, alors on dit
putain,
la même chose.
Putain, vous êtes bien doués,
ah,
les,
bon,
les
gars.
Putain.
Un an et demi après, on a la même explication. C'est quand même un truc de dingue, quand même. Et bien, en tout cas, merci Didouille.
Voilà.
pour cet instant intelligent. Merci les gars.
20 sur 20, merci la
20
France.
Sur 20. Alors on va passer à Starlet qui va avoir testé pour nous quelque chose. Sometimes when the rain falls, I think of you. It gives me this peaceful feel. It's true. Starlet, à toi.
C'était important. Ce mois-ci, j'ai testé pour vous le Café Couture. Le Café Couture est une boutique qui a ouvert ses portes il y a environ 6 mois à Rouen, 7 rue Alsace-Lorraine, grâce au crowdfunding sur Ulule. Les clients peuvent bouquiner dans le coin salon du bar, venir réaliser des travaux de couture avec les machines à disposition, tout en bénéficiant de conseils, participer à des ateliers couture, crochet et tricot, acheter du petit matériel de couture et du tissu dans la mercerie. Il y a également un espace enfant permettant aux parents de pouvoir réaliser leurs travaux de couture pendant que les enfants s'initient aux loisirs créatifs. Je me suis donc inscrite à un cours d'initiation à la Micheline. Oh
putain, à la Micheline, marrant, je ne le voyais pas venir du tout celui-là.
Je me suis inscrite à un cours d'initiation à la machine à coudre. Donc le concept est très sympa, on s'inscrit et on vient les mains dans les poches puisqu'on nous prête une machine à coudre sur place. Le prix du cours d'initiation est de 30 euros et de 20 euros pour les chômeurs, étudiants et bénéficiaires de minima sociaux. Au premier cours, on verse également une participation libre pour l'adhésion. Donc ce cours dure 2 heures, le cours pour l'initiation à la machine à coudre. Le public est assez étonnant. Du haut de mes 35 ans, j'étais la plus vieille des candidates. Et le concept n'attire pas que les femmes. Il y a aussi eu un jeune hipster à bonnet, non, mais qui était juste à côté de moi à la machine à coudre et qui me disait « Waouh, t'as vu ce que j'ai fait et tout, c'était trop cool. » Je vois, putain, t'as mort ici que moi.
C'est un rappeur, non?
Non, c'est un hipster à bonnet.
Hipster, quoi. Hipster à bonnet.
Non, hipster, c'est un look.
Mais oui, un hipster à bonnet.
Donc il est barbu avec...
Mais hipster à bonnet à quelle revue, je veux dire?
C'est-à-dire que, en gros, c'était un. Bon, je continue.
À
côté
travaux. Je pense que ça devait être un truc comme ça. Mais
d'ailleurs, tu
loisir et création.
Tu l'apportes, ta.
Attends, je peux pas finir. Donc, à l'issue des 2 heures de cours d'initiation à la machine à coudre, je maîtrisais la couture droite, le zigzag et la couture dite à l'anglaise.
Dis donc.
C'est-à-dire. C'est pas rien.
C'est-à-dire.
Franchement, c'est pas rien.
La couture à l'anglaise.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le pied à gauche, le pied à la droite, pas du tout.
Ah,
bah non, c'est un peu trop technique. Je sais pas si je peux vous expliquer là, c'est un peu trop compliqué. Mais voilà, je continue. Donc, forte de cette expérience, je me suis inscrite à un cours de 3 heures pour faire une robe trapèze. Donc, pour les cours pratiques, il faut prévoir 3 heures. Les cours pratiques durent 40 euros et 30 euros à tarif réduit. On peut amener son tissu.
Dure 40 euros.
Il dure 40.
J'ai dit dur.
Il dure 40 euros, oui. Mais c'est bien, c'est bien.
Il dure un anthropode, en fait.
Il coûte 40 euros. On peut amener son tissu.
On
devrait
faire ça. Ça
ou en acheter sur place.
Ah oui, donc ça veut dire que tu arrives pour que. Donc il t'amène le patron. Et c'est 40 euros sans le tissu.
Amenez-moi le patron.
Quand tu dis t'amènes le patron, c'est 40 euros sans le tissu, ça veut dire quoi exactement?
Alors après. Alors soit tu viens. Et tu choisis ton tissu sur place et ça te coûte environ 30 euros.
De tissu ?
Oui.
Plus 40 euros de...
Par contre, moi, j'ai été stinode. Mais... Je suis allée chez Toto Soldre. J'ai pris mon petit coupon de tissu à 2,30 €.
J'y crois pas.
Avec des trous dans le bas. Mais je me suis dit, j'en ai assez pour faire mon patron, machin, tout ça. Et en fait, j'ai fait un petit peu ma romaniche en arrivant. Excuse-moi, Marius, c'est pas contre toi. Je suis arrivée en disant, j'ai des trous en bas, est-ce qu'on peut le faire? Et on s'est un peu pris la tête pour mettre le patron, mais on y est arrivé.
C'est combien mon cousin tissu, là, avec des trous en bas?
Non, mais les nanas qui ont acheté sur place, elles en ont eu pour entre 30 et 40 euros.
Ah ouais, mais ça faisait cher la robe.
Ah ouais,
du coup,
c'est pas mal.
Mais
ouais.
Non, mais faut pas prendre comme ça.
Mais oui,
après, quand tu fais une loque.
Après, t'apprends. Et puis tu vas acheter dans
voilà,
du tissu.
Après, t'aurais très bien pu faire un cours à 40 euros et pas repartir avec une robe.
C'est un investissement.
Tu ramènes là.
Tu y vas pour apprendre. Il se trouve que tu repars avec une robe, c'est cool. Mais tu aurais très bien pu juste apprendre.
Voilà. Non, parce que là, je vois ta robe, mais t'as aussi un billet de.
Oh, c'est pas grave là.
Non, c'est pas une robe.
Justement.
C'est une blouse.
Ah. Un billet. Désolé, un les gars. Billet.
Non, c'est drôle.
On peut amener son tissu ou en acheter sur place. Tout le reste du matériel est fourni, le fil, le billet, le matériel, les ciseaux, etc. Donc le billet.
Le biais, oui.
C'est ça, c'est
quoi,
son biais, encolure. Là, elle a un biais
le
sur l'encolure.
Le biais, c'est ce que tu mets un petit peu sur les finitions du col, des manches, etc.
Donc là, il se trouve qu'en haut, ils m'ont trouvé un biais qu'elle avec ma couleur et sur les bords, ils n'avaient pas assez. Donc,
bah, t'as pris le tissu que t'avais.
On a pris le tissu de ma robe. Donc, en gros.
Vas-y, Starlet, vas-y.
J'ai acheté un coupon tissu chez Toto à 2,30 €.
C'est bien.
Ma robe m'est revenue à 32,30 €. Et la nana qui m'a fait le cours, qui s'appelle Lily Cox, donc Lily Cox, a dit « Je laisse le patron sur place. Si vous le voulez, vous venez avec des feuilles calques et vous le décalquez. Et donc, je pourrais en faire plein. »
Oh, tu vas décalquer le patron.
C'est génial, ça,
d'accord.
En fait.
Alors,
je vais pas donner mon avis là-dessus. Hein,
tu peux en faire plein à ta taille, mais pas aux tailles de tes copines.
Non, on s'en fout de tes copines.
C'est quoi ces questions?
Parce que le but du jeu, c'est que son cours, il serve à ses copines. Bah non, à ma gueule.
Didou, tu crois quoi là?
Ah ben voilà, j'attendais ce. Je me disais, on avait quand même pas de moments surréalistes dans l'émission.
Au pire, Lily Cox m'a appris que.
Et c'est Lily
une
Cox,
taille, c'est la nana qui m'a tout appris quoi. C'est
toi t'as suivi la discussion.
Lily Cox m'a appris que une taille en plus c'était 0,5 dans la largeur.
C'est vrai, c'est 1 demi-centimètre. Oui,
oui, c'est pareil en fait.
Et vous vous rendez compte de la conversation qu'on est en train d'avoir là?
Mais non, mais c'est pas ça. C'est si je veux faire un patron à quelqu'un qui fait deux tailles de plus que moi, je rajoute 1 centimètre à mon patron. Et puis c'est tout.
Mais est-ce que le café, alors dans le terme café couture, le café il est offert?
Alors c'est pas ça.
On a fait couture, maintenant on fait café.
Mais non, c'est le terme café couture.
Le café couture, en fait, à la base, tu y vas, c'est juste pour louer des machines à coudre ou une surjeteuse ou etc.
Mais ça s'explique, c'est parce qu'en fait, à la fin du truc, tout le monde dit mais café la couture. Oh, et c'est qu'a fait la couture. Voilà.
Moi j'aurais jamais mon cours.
Tu as eu raison de l'ouvrir, Ludo. Je suis d'accord.
Et c'était pas moins pertinent que certaines autres interventions.
Oh, mais en fait,
donc à la base, en fait, tu vas au café couture pour louer une machine à coudre.
Ouais, mais toi, t'as bu là-bas, non?
Moi, je t'écoute, Douche, je t'écoute.
Mais
juste ce soir. C'est juste ce soir.
Attends, mais moi, je t'écoute depuis.
Non, mais c'est l'autre.
Ah, pas du
tout. Sa gueule, regarde.
Donc voilà, le café couture, à la base, le principe, c'est d'y aller pour une heure ou deux ou trois ou plus. Et de louer une machine à coudre pour faire son petit projet quand t'es pas équipé.
Moi je pense qu'il faut te prendre en photo parce que la robe est très réussie.
Non mais voilà, parlons du résultat.
Est-ce que je peux continuer que j'ai toujours pas parlé de la robe.
Je pense qu'il faut parler du résultat en fait.
Donc, à la base, je m'étais inscrite pour le cours d'initiation à la machine à coudre. J'ai posé la question à la fin du cours. Est-ce que je suis prête à un cours pour faire des choses?
Est-ce que je peux ouvrir ma boutique demain? Bah, écoutez, mademoiselle, on va être franc avec vous. Tout de suite, là, à l'instant T, peut-être pas. Faites des porte-chéquiers, tout ça.
Ou des porte-lettres, tu sais.
Elle lui a proposé de recoudre une tête.
Alors 32,30 €, ça peut paraître un petit peu un chiffre important pour une robe, mais c'est moi qui l'ai faite et donc c'est ça qui est cool.
C'est ça qui est cool.
Et donc ça comprend le tissu et le cours et le prêt de la machine.
Marius, on voit la robe, c'est super bien fait.
Alors je porte la robe.
Oui, elle porte la robe.
Bah oui.
Tu t'es douté que je l'avais pas acheté.
Carrément.
Tu me penses super bien.
Après dans l'eau t'as écrit bye Delphine donc.
Mais je crois que je vais me faire faire des étiquettes avec mon nom.
Non mais franchement c'est balèze quoi. Enfin...
Non mais c'est vrai. Et alors donc en
tout cas travaux pratiques et tout ça.
Qu'est-ce qui se passe ensuite alors du coup 32,30 €?
Oui. Mais donc ça peut paraître un petit peu important parce que c'est une robe que faite maison et puis voilà.
Ouais mais il y a le cours derrière avec ça.
Le but de ce cours c'est essayer de te faire gagner en autonomie sur après l'utilisation
des techniques.
Oui c'est ça.
C'est apprendre des techniques. Là j'ai appris comme tu disais tout à l'heure à faire un biais. Donc le biais c'est
mais c'est très compliqué un biais quand même.
C'est pas si compliqué que ça quand t'apprends à le faire.
Donc, piquer droit sur un biais c'est pas évident. Hein.
Moi je trouve que t'as un très très beau biais.
Non mais t'es doué.
J'ai appris ça. La prochaine fois j'apprendrai à faire peut-être un sac ou j'apprendrai à mettre une fermeture éclair etc. Mais j'y retournerai parce que vraiment j'ai appris plein de choses. Toi tu te fous de ma gueule avec
non parce que là tu l'enfiles donc comme ça il y a pas de d'accord. Et donc, c'est très réussi.
Merci beaucoup, Madidoui.
Non, franchement. Non.
Et donc, le patron que je vais aller décalquer la prochaine fois. Didoui me posait la question de la taille. Et en fait, d'après ce que Sergine m'a appris, tu rajoutes 0,5 cm par taille et tu en enlèves 0,5 aussi, etc. Donc tu peux adapter ton patron. Mm-hmm. Et ça, c'est trop super top aussi.
Non, mais je suis d'accord, moi je suis bluffée.
Et
merci, Madidoui.
L'adresse, c'est où ça?
Alors, tu peux trouver le programme des cours sur leur page Facebook, donc à l'atelier couture de Rouen.
Café Couture, c'est ça?
Absolument.
C'est mettre à l'adresse sur, sur le blog.
Voilà. Donc, tu as le tarif de location donc, des machines à coudre. Donc, c'est 8 euros les 2 heures. Parce qu'à la base, c'est fait pour ça. C'est pas vraiment pour les cours. En fait, c'est surtout pour louer des machines.
Parce qu'il n'est pas excessif. Parce que s'ils te fournissent en plus le fil.
Oui.
Les canettes, elles sont faites en fonction de la couleur de ton tissu et ce que tu veux utiliser.
Absolument.
Donc, c'est pas cher.
Combien de machines à dispo?
Pendant l'atelier couture, on était 5.
3 tirages à bière et
des canettes. On était 5, donc il y avait 5 machines à coudre. Et il y a aussi un truc que je trouve super mignon, ils font une clinique du doudou.
Oh, c'est mignon.
C'est trop mignon. Et c'est gratuit pour les adhérents, en fait. Ouais, tu répares les doudous des enfants, je trouve ça trop mignon.
Et moi, je trouve un truc trop mignon, c'est qu'un jour, je suis rentré chez moi un soir... Et puis il y avait Starlet et puis Christophe qui était en train de faire de la couture.
Et bah, c'était
ça trop mignon.
Ouais,
la maison.
Bah, c'est parce qu'on est des rockers qu'on peut pas être des cousins.
En même temps, avec Chris et Nico,
on a fait une transformation de blouson qui est excellente et moi je suis très content.
Il vaut mieux que tu rentres chez toi en
trouvant
Starlet
France,
et Christophe en train de faire de la couture plutôt qu'autre chose. Quoi.
C'est ce qu'ils m'ont raconté. Hein, c'est pas trop ce qu'ils ont
la couture. Bref, à conseiller et à vivre comme expérience.
Le sujet, c'était vraiment très sympathique.
En même temps, on peut faire de la couture au lit.
Bon, tu vas fermer ta gueule, tu vas calmer.
J'y retournerai pour apprendre d'autres techniques.
Là, et j'ai nous faire rire.
Non, mais c'est vachement sympa, etc. Franchement.
Je vois que ma robe fait l'unanimité.
Oui.
Et en
oui,
plus, je suis très fière parce que c'est moi qui l'ai faite.
Bravo.
Et je vais pouvoir aller chercher le patron, donc je pourrais essayer d'autres tissus, etc. Je pourrais en faire à ma fille. Et donc voilà, je trouve le concept très très sympa. On est très bien accueillis. Et donc, n'hésitez pas à y aller. Honnêtement, c'est pas très cher pour ce qu'on apprend là-bas. Et voilà.
Donc, tu rappelles le nom, l'adresse?
Donc, c'est le Café Couture qui se trouve 7 rue Alsace-Lorraine à Rouen.
D'accord.
Vous serez accueilli par Sergine qui est très sympathique aussi.
Bah, okay.
Et Lily Cox qui propose des cours, mais elle n'est pas la seule à proposer des cours.
D'accord. Très bien. Eh ben, écoute.
Et non, je ne sais pas si j'ai dit, excusez-moi, ils font aussi des cours pour les enfants à partir de 5 ans. Le samedi matin, donc le matin où j'ai fait mon initiation à la machine à coudre, il y avait une petite fille qui s'est cousue les mitaines.
C'est mignon.
Mais je trouve ça trop mignon. Elle s'est fait sa petite paire de mitaines, elle est ressortie, elle était fière comme tout. Je pense que je vais emmener ma fille parce que dès que je sors la machine à coudre, c'est...
Je pense que tu peux emmener ton fils aussi. Hein.
Oui, mais il n'a pas l'âge. C'est parce qu'il n'a pas l'âge que je ne l'emmènerai pas parce que c'est à partir de 5 ans.
C'est en...
Mais voilà, ils sont drivés par pareil une prof en fait je vois mes enfants quand je sors la machine à coudre, c'est ils me tiennent mes aiguilles, ils me tiennent le tissu, ils sont vraiment à fond, c'est hypnotisant pour eux et donc je les emmènerai pour qu'ils se fassent soit une trousse, soit un doudou parce qu'ils font ça, soit une dinette en tissu. C'est super sympa, soit une mitaine, soit un snood.
Qu'est-ce qu'un snood?
Un snood, c'est une écharpe,
qui a pas de fin. Fermée.
Qu'est-ce que ça veut dire? Un snood?
Non, je recommande ce cours qui est très très sympa et moi j'y retournerai. Voilà.
Bah c'est cool. Bah écoute, merci Starlet. Donc le merci café Starlet. Couture. Eh bien, pas de Freddy, pas de quiz. Nous allons passer à la rubrique 60 secondes chrono avec chacun ses coups de cœur. Et puis bah tiens, puisque on va changer un petit peu les habitudes, on va laisser parler nos invités en premier sur leur coup de cœur ou leur coup de gueule d'ailleurs, puisque on a souvent l'habitude de parler de coup de cœur, mais il peut y avoir aussi des coups de gueule, hein, ça peut arriver. Marius me fait des grands signes, donc on verra. Mais tiens, Grégory, ça me fait bizarre.
Bertrand d'abord. J'ai besoin de réfléchir.
Laissons Bertrand nous présenter son coup de cœur ou son coup de gueule.
Moi c'est un coup de cœur.
Attention, c'est parti, le chrono va commencer. Christophe, tu es prêt? C'est parti.
En fait, j'aurais pas besoin de 60 secondes, c'est trop. Moi, c'est l'intégrale de Black Sad, la BD. C'est les 5 histoires. L'auteur, c'est Diaz Canales et c'est en association avec Guarnido. Voilà, c'est tout. C'est. Non, mais ouais, Black Sad.
Pourquoi le pitch, pourquoi c'est ton coup de cœur?
C'est des enquêtes, c'est un détective privé.
C'est un chat.
Ouais. C'est l'usage des animaux dans la BD est hyper pertinent, ça a un vrai sens, c'est hyper bien écrit, hyper bien dessiné.
Et t'as envie de... T'es au cinéma, en fait.
Et l'album est magnifique, en plus.
L'album est magnifique, les dessins sont sublimes. Mais enfin, c'est... Voilà,
l'usage des animaux, c'est comme dans celui de Spiegelman, Mouse.
Mouse, c'est
différent.
C'est différent, c'est mais ça a la même intelligence, en fait. La même intelligence. Et voilà, l'intégrale de Black Sad vient de sortir, et il est magnifique.
Jusqu'à Amarillo, donc, qui est le cinquième tome. Et c'est exactement. Le dernier tome, il y en aura d'autres, en fait.
Ben, après, non, il n'y en aurait que 5.
Ouais, il sait pas trop. Pour l'instant, il fait d'autres choses, mais... Ce que tu m'as montré tout à l'heure, c'est vraiment les 5 tomes réunis en une seule intégrale. C'est magnifique. Enfin, ouais. Après, on aime ou on n'aime pas Black Sad, mais
oh, c'est chouette.
Y a Greg, c'est bon. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Eh ben, écoute, attention, ça va partir. Attends, tu as
allez, c'est parti.
60 secondes, c'est parti.
Eh ben, moi, je crois qu'on le dit pas assez, mais j'aime la vie.
Ah, oh, c'est oh. Mais tu as toute la vie.
Voilà. C'est un petit coup de cœur, il faut le dire.
J'aime la vie.
Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas besoin des 60 secondes, voilà, c'est dit.
Donc tu veux qu'on mette la chanson des enfoirés ou pas?
Attends, mais je rêve vous êtes en train de fumer.
C'est beau.
C'est beau, hein? Mais c'était ça, je pensais que tu avais un coup de gueule un petit peu.
Non, je l'ai dit tout à l'heure,
ouais,
je vais pas
si
remettre...
Tout à l'heure, t'avais un coup de gueule.
Mais ouais, mais je vais pas remettre la couche sur la culture, c'est bon, on l'a compris. Ouais.
Bah, tu as raison en même temps, hein, faut pas...
Non, c'est bon.
Tu aimes la vie?
J'aime la vie.
Eh ben écoute, je pense que nous sommes tous ici...
D'accord.
Dans le même esprit, c'est un petit peu le principe de l'anthropote, c'est de partager ce qui nous plaît et finalement
et
chacun. Non mais chacun a sa façon d'aimer les choses et voilà quoi. Bon, d'où aimer les voitures, chacun son problème.
Mais pas que ça, pas que ça. Et la couture. Bah, en plus, je suis mise en des cases là, c'est hallucinant.
Bah, tu les cherches un petit peu.
Bah, t'as dit que j'étais nympho tout à l'heure.
C'est pas moi. C'est Starlet tout à l'heure
qui a dit. C'est Starlet qui a dit que j'étais nympho.
Qui a dit c'est la nympho du groupe.
Voilà.
C'est pas moi.
Eh ben... Oh, ben je suis une info, alors, j'aime les voitures, bref, je suis un mec.
Tiens,
quoi.
On parlait de Starlet. Attention, le coup de cœur de Starlet, c'est parti.
Donc mon coup de cœur de ce mois va à un génie du cinéma comique qui n'a pas du tout d'actualité et pour cause, il est décédé en 1982. Il s'agit de Jacques Tati, grand nom du cinéma français. Je ne connaissais pas du tout son œuvre, mais avec Nico, on a mis le nez dedans en début d'année et je reconnais que je suis agréablement surprise. On a vu les trois premiers, jours de fête, les vacances de Monsieur Hulot et mon oncle. C'est frais, c'est burlesque, plein de situations cocasses et satiriques. Il y a peu de dialogue, mais la bande-son s'exprime à la place des acteurs. L'acteur principal est toujours presque muet en parole, mais excessivement bavard en gestes. Dans mon oncle, par exemple, inutile de comprendre ce que vocifère le patron dans l'interphone, puisqu'il suffit qu'il vocifère pour être un patron. Tous ces bruits participent et contribuent à forger l'imaginaire social de l'époque. Je trouve la mise en scène extraordinaire et très moderne. On est de plus en plus habitué à la violence physique et psychologique dans les films et les séries. On ne se rend même plus compte. Les films légers et désuets de Tati me font du bien.
Non, Ludo, tiens. Allons-y pour Ludo. Es-tu prêt?
Oui.
Mon cher ami.
C'est parti. Et tu balances, voilà.
C'est parti.
Oui, mon coup de cœur, moi, va pour une chanteuse qui s'appelle Didi Penny et son groupe qui s'appelle les Dum Dum Girls. Et notamment une chanson que j'écoute pas mal en boucle en ce moment qui s'appelle Cult of Love. Donc, les Dum Dum Girls, c'est un groupe de filles qui s'est constitué en 2008-2009 et qui officie dans une musique qui est proche des 60s, Shangri-La's et très typée vintage. Et avec beaucoup de reverb, vraiment des sonorités très complètement de l'époque. Et voilà, elle a le sourire le plus ravissant de ces derniers mois que j'ai pu voir. Elle est adorable et voilà, j'adore ce groupe. Et notamment cette chanson surtout. Je vous laisse écouter.
T'as découvert comment ?
Par un magazine en fait. Ça s'appelle Plugged. Voilà, écoutez, ouais. C'est un vraiment très chouette morceau.
Merci Ludo. Écoute, hein. Donc, les Dum Dum Girls, Cult of Love. Monsieur Marius, tu as un coup de gueule, a priori. Me trompe-je ou as-tu un coup de gueule?
Non, oui,
attention, c'est parti.
Coup de gueule, ouais.
Donc, bah, voilà, l'année dernière, on en avait parlé de l'ancien. Je ne sais plus qui avait fait un coup de gueule là-dessus. Et donc, moi, j'ai. Donc Starlet, et moi j'ai découvert ce single bien avant la, on en a parlé tout à l'heure, bien avant le gros
polémique.
Truc qui, la polémique qui se passe autour de ce superbe titre que je trouve simplement
nul.
Je sais pas. Moi, là où mon coup de gueule est à faire, c'est parce qu'il y a des mecs là-dedans qui ont des super têtes, des super textes normalement. Goldman, c'est quelqu'un qui fait quand même
super
des
budget,
trucs,
quoi, attends.
Du budget, il y a tout, et là il nous pond une vraiment une merde énorme, quoi. Et j'avais, et tu vois, c'est, enfin, je suis peut-être con, mais j'avais même pas vu qu'il y avait un question-réponse entre les jeunes et puis les vieux. Moi, je voulais seulement parler de la musicalité et puis de tout ça, et je trouve ça vraiment un chier.
C'est vraiment des enfants.
Alors, nous allons passer au coup de cœur de Monsieur.
Non, c'est à toi, Christophe. Tu me fais plein de signes.
C'est à toi. It's yours.
Christophe.
Non, mais c'est pas grave.
Ah non, pardon. Didouille, autant pour moi. Et nous allons donc passer au coup de cœur de Didouille. Vas-y, Didouille.
Alors.
Poursuivre à ça.
Moi, j'ai un super méga gros coup de cœur pour le nouveau film de Disney en partenariat avec Marvel, ou Marvel en partenariat avec Disney, Les Nouveaux Héros. Voilà, je suis absolument fan. On est allé le voir il y a 2 jours de cela. Et donc, nous avons fait la connaissance de Baymax, de Hiro et de son frère Tadashi. Et je vous invite vraiment, vraiment à aller voir ce film parce que non seulement on est bluffé par les images et on se rend compte qu'au niveau de la 3D, on est encore passé un niveau au-dessus. Mais il y a vraiment une histoire, il y a du fond et on passe un moment. C'est un film qui dure 1h42, mais je ne les ai pas passés. J'en demandais encore. Alors, certains pourront dire que ça peut être un gars. Enfin, les critiques sont dithyrambiques. En fait, vous regardez les votes publics et moi, je vote 5 étoiles sans aucune hésitation. Et je serai prête à aller le revoir. J'ai juste passé un moment magique. Voilà.
Eh bien, écoute. Eh bien, Christophe,
pouka.
Je te propose d'y aller. Attention, c'est parti.
Eh bien, moi, c'est un coup de cœur. C'est pour un groupe français qui s'appelle Forever Pavot, une machine à rêver. Vous en demandiez pas tant, et bien pourtant, Emmanuel Sornin, un artisan musical à la fois pro de la bidouille et démolisseur de cloison, l'a fait. Son album est une sorte de pop psychédélique alambiqué et étoilé où l'on retrouve les ambiances des westerns en technicolor, des films noirs aux 1000 reflets et beaucoup d'autres images cinématographiques. On a l'impression d'être dans des BO formidables signés ou Ennio Morricone ou John Barry ou bien encore Serge Gainsbourg. Il utilise des instruments comme le clavecin, l'orgue, les flûtes, la basse, des basses assez rondes. Et dans l'extrait qui passe, les cigognes unifares, les textes sont carrément barrés. Je vous laisse écouter.
Ouais, carrément, j'adore.
C'est un film des années 70. Hein.
Forever Pavot, les cigognes et nuphars.
J'ai eu l'impression d'être dans chapeau melon et bottes de cuir.
Ah, carrément, ou un petit côté OSS 117.
Oui, c'est carrément. Ouh, c'est loin.
C'était très bien.
J'avais un nom.
Bah, écoute, je vais laisser la parole à monsieur Arnaud.
Alors, 60 secondes pour évoquer les 7 premières saisons et demie de Mad Men, c'est trop court. Cela reviendrait à vouloir résumer en une minute 10 ans de l'histoire des États-Unis et surtout la vie de son héros, Don Draper, publicitaire de génie, homme quelque peu torturé, doux euphémisme, qu'on admire autant qu'on le déteste. Cette série AMC dresse le portrait de l'Amérique des années 60, où tabac et surtout alcool sont omniprésents au quotidien et au sein de laquelle les femmes peinent à se faire une place dans une société un brin machiste. Mais c'est aussi une formidable série sur la cruauté et les vicissitudes de la vie en entreprise. Alors puisque je n'ai qu'une minute, je dirais seulement que j'attends avec impatience de savoir comment va s'achever le parcours de cet éternel phénix qu'est le charismatique Don Draper, et ainsi savoir si elle entrera au panthéon de mes séries favorites, juste derrière les inégalables Six Feet Under et Breaking Bad. Rendez-vous donc le 5 avril 2015 pour cette ultime demi-saison, format qui semble être désormais de tradition pour le final des grandes séries US.
Quoi, t'as fait ça pro, toi?
Moi, c'est la première fois que j'ai autant de partir, hein.
Birdman, moi qui m'a complètement subjugué, d'une part par sa réalisation, son histoire. Ludo, je sais que ça t'a moins perturbé.
J'ai bien aimé.
Mais moi, ça m'a vraiment parlé. Ses acteurs, son parti pris musical, son parti pris en termes de scénario et en termes de réalisation surtout. Puisque le plan séquence, enfin, c'est rien dévoilé en disant ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de réalisation. Un côté à mi-chemin entre le théâtre et le cinéma. Il y a vraiment quelque chose qui est impressionnant. Moi, ça m'a... Je sais pas, j'ai vraiment été complètement emporté par ce film. D'une part, parce que la performance de Michael Keaton est juste terrible. Comment s'appelle-t-il ? Je n'ai plus son nom. Edward Norton, pardon, est également impressionnant dans ce film. Emma Stone, pardon. Et c'est vraiment un film qui est terrible. J'ai vraiment trouvé ça formidable. Voilà. Je m'en contenterai.
Il m'a appris Franck Miguel.
Et donc, en conclusion de cet épisode, vous pouvez aimer la page de l'Entrepode, bien sûr, sur Facebook. Mais vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur le blog. Blog qui regroupe toutes les informations dont nous parlons au cours des épisodes. Vous pouvez aussi, comme certains de nos auditeurs, nous laisser des messages sur iTunes, que ce soit des commentaires ou des étoiles, puisque l'avantage des étoiles, c'est que ça nous permet d'avoir une certaine visibilité par rapport à tout le reste. Et puis, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. Je ne sais pas, les gens qui sont là autour de la table, vous passez un moment.
C'était parfait. Bien.
Super invité.
Les invités, c'était top. Après, qu'est-ce qu'on s'est fait chier.
Et voilà, vous avez la conclusion de Marius. Et donc, ne vous inquiétez pas, en guise de conclusion, nous avons Ludo qui nous a laissé un petit commentaire et plutôt une petite perle. Je dirais une perle. Vraiment, là, pour l'avoir écouté avant l'écoute. En post-générique, et vraiment ça vaut le coup que vous restiez après parce que vous allez vraiment prendre votre pied. Ludo, on te retrouve dans quelques instants. Céline, Barbara, allez, vous rentrez à la maison et vous laissez place à Gnesa. Gnesa, elle chante divinement, elle a de jolies robes moulantes et elle va vous envoûter avec son ultra tube Wilder. Bon courage.